Comic-Con Paris.
Je sais pas si on reconnaît quand on fait ça.
On verra après, sinon.
D'accord, donc on le fait à ce moment-là.
Ouais.
Un, deux, trois. Ok.
Comic-Con Paris.
Avec moi, Anaïs.
We fall in you.
Bienvenue dans la semaine berlinoise 8 spéciale Comic-Con Paris. Nous sommes le lundi 6 novembre et comme le titre l'indique, nous n'allons pas du tout parler de Berlin aujourd'hui, mais bien de Comic-Con, dont on revient à peine et qui s'est déroulé du 27 au 29 octobre à la Grande Halle de la Villette à
Paris.
C'est ça. On y a travaillé durement, intensément, mais dans la joie et la bonne humeur. Cependant, on n'a probablement pas eu la même expérience que ceux qui y étaient. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais du coup, on s'est dit que ça valait le coup de partager notre expérience à nous, surtout que cette année, c'était très, très spécial parce que c'est la première fois que Marine était avec moi. Marine, ton premier Comic-Con ?
Alors, Comic-Con. On a toujours beaucoup d'attentes parce qu'on connaît la Comic-Con San Diego et tous ces grands événements. Moi, j'ai jamais fait de mess-up parce que c'est le mot allemand que j'ai. Donc,
de foire, de festival, de convention.
Non, parce que festival, non.
Ils utilisent le terme.
Mon festival. Pour moi, festival, en fait, c'est lié à la musique ou au théâtre, etc. Donc, c'est pour ça.
Pour parler de Comic-Con Paris. Du coup, j'adore parce que c'est classique à elle. Je te donne la parole et je reprends la parole immédiatement. Je vais préciser parce que déjà, donc moi je fais partie du staff de Comic-Con. Cette année aussi, tu étais là en tant que, qu'assistante de. Assistante de moi, c'est bizarre à dire, mais.
En tant que mon assistante.
Mais c'est moche. C'est pas moche, en fait.
Je dis ton assistante.
Oui, non, mais en tant que mon assistante. Bon, pardon. Bon, et du coup, tu étais. Toi aussi, tu fais partie du staff, c'est pour ça que notre expérience est particulière. Mais. J'ai eu l'occasion de participer à l'émission de France Inter 2 jours avant le début de Comic-Con, justement pour essayer d'expliquer ce que c'était que Comic-Con aux gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et ils utilisent beaucoup le terme festival de culture populaire ou festival de pop culture. En fait, parce qu'effectivement, si tu dis le mot convention, si tu dis le mot foire, si tu dis le mot, pour un Français qui n'est pas, on va dire, acclimaté au jargon anglo-saxon sur la question, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Enfin bref, les gens de Comic-Con utilisent le mot festival très souvent. Et c'est vrai que les fans, ils ont tendance à utiliser convention. Mais convention, il faut bien comprendre que ça va être compris par la moitié des gens.
Ouais.
Donc voilà, messe, c'est bien messe.
Messe.
Enfin bon, passons. Je t'avais donné la parole, je te la rends. Donc Comic-Con Paris, c'était comment ?
Comic-Con Paris. Alors Comic-Con Paris, comme je disais, donc t'as cette attente par rapport au... Est-ce que tu peux connaître de la Comic-Con San Diego et toutes ces grandes Comic-Con. Et donc, moi, je suis aussi une fan, mais là, je venais pour travailler. Donc, tu n'as pas la même approche. Et en arrivant là-bas, finalement, tu as cette grande convention slash messe avec tous ces cosplays, tous ces gens fans. C'est absolument magnifique juste à voir ça parce que tu dis genre « It's my world, I'm home !»
C'est clair.
C'est genre,
my people!
Tu te sens tellement bien, t'as pas besoin de te cacher, genre t'es juste toi-même quoi. Et moi, le truc qui ressort, c'est que j'étais dans mon élément et je me suis dit, pas forcément après le premier jour, parce que le premier jour, faut que tu rentres dans le bain, faut que tu. En plus, elle m'a présenté tout le monde pour que je me fasse un peu que je connaisse tout le monde pour pouvoir. Me retrouver plus facilement et puis pour pouvoir prendre ma
ta place
mais c'est plus mon empreinte enfin mon là c'est
trouver
pas grave
tes marques.
Mes marques merci et en gros ça a été que positif en 3 jours quoi j'ai commencé j'ai rencontré tellement de personnes intéressantes. On a rencontré j'ai rencontré les gens de Pourquoi Buffy c'est génial.
And they're awesome.
And they're awesome. Super. En plus, enfin, la rencontre, on a rencontré Mathieu d'abord, je crois, c'est ça, mm-hmm. hein, dans la première journée. Mais c'est le seul, enfin. Et enfin, c'est le seul qu'on a rencontré des trois en fait au départ.
Non, en fait, il y en a
c'est le soir. Mais oui, mais moi j'ai rencontré avec Mathieu en fait. Et le soir, en fait, on allait boire. Enfin, on les a rencontrés et on les a vus. Donc Comic-Con, donc super, franchement. Enfin, j'aurais aimé profiter un peu plus de Comic-Con en tant que fan, même si ça, j'ai quand même assouvi pas mal d'attentes dues au travail parce que j'ai été vachement plus proche le fait d'être dans l'espace VIP talent, c'est quand même pratique parce que tu vois quand même plein de gens et c'est un contact différent, quoi.
Bien donc, que
tu peux pas surtout bien bah, tu peux pas rencontrer tout le monde. Enfin, tu les vois mais tu peux pas leur parler. Bah, disons, t'as pas le droit.
Enfin, je pense que en fait, personne nous a interdit de leur parler.
Oui.
Mais je pense que toi et moi, on fonctionne de la même façon.
Tu veux dire qu'on est professionnels.
Voilà. Et du coup, il y a un côté. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, quand je suis dans l'espace talent, à ne pas adresser, à part s'il y a un cas particulier, mais généralement, en tant que règle, je n'adresse pas la parole à des gens, à des guests avec qui je ne vais pas travailler.
Tout à fait. Mais ça, c'est...
Et je pense que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais du coup, je pense que si j'étais fan et que si j'assistais à un panel, j'aurais beaucoup plus tendance à leur adresser la parole que là, en tant que professionnelle sur le truc où je vais faire exprès... d'être extrêmement respectueuse.
Tout à fait, c'est super important.
Et du coup, je vais encore moins avoir l'occasion de leur parler que si j'avais assisté à un panel et essayé de leur parler après, quoi.
Non, mais en plus, j'ai bien vu comment... Tu m'as bien montré en plus comment tout fonctionnait, vu que tu as déjà quand même un certain...
Passif
par rapport à tout ça. Et donc, en gros, d'attendre que l'agent ou la personne qui s'occupe, le handler, qui s'occupe de la star, en fait, te présente. Parce que c'est quand même plus...
Ouais, ils le font pas plus... tous, pas
non,
comme
ils
ça,
le font pas tous, mais pour moi, ça m'a semblé complètement normal. Et j'ai jamais remis en doute ce genre de choses, parce que c'est un respect qu'il faut dans ce milieu, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Donc, voilà. Et donc, par rapport à... Donc Comic-Con, je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse, et puis ça m'a confirmé que j'étais faite pour ça, quoi.
Ouais. Non, c'était vraiment.
Et puis surtout, enfin, c'est notre première expérience nous à toutes les deux en tant que BFF team, work team. Et en gros, parce que ok. Spoiler, on vit ensemble. En tant que meilleure amie.
J'ai failli m'étouffer.
En tant que meilleure amie.
Oui, non mais. Malheureusement, pour nous, nous ne sommes pas un couple. Ce n'est pas dans les cartes pour nous. Ce n'est pas notre identité.
Non, du tout. Que nous avons un adolescent à la maison, petit Bert, qui.
Et même si, effectivement, on fonctionne comme un couple marié, qu'on le veuille ou non.
Tout à fait, on s'engueule à table et tout, c'est super. Les gens nous regardent toujours, genre. Mais en même temps, ça sera une autre discussion dans une semaine berlinoise future, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de parler de notre couple, entre guillemets. Donc,
c'est la première fois qu'on travaille
ensemble. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, et moi, c'est bien, parce qu'en fait, c'est différent, parce que c'est vraiment dans un travail où tu as un stress extérieur, parce que quand on travaille ensemble à la maison, le stress extérieur n'existe pas vraiment, vu que c'est juste notre stress mutuel qui va sur l'une sur l'autre et que ça fait des fusions. Et là, franchement, c'était vraiment super parce que je pars du principe que je la connais bien et que je sais comment elle fonctionne. Donc voilà quoi. Donc finalement, c'est bien. Enfin, c'est super bien quoi. Donc c'est pour le futur, c'est très positif. Vous allez revoir
la team
écureuil en action.
Mais non, parce que jusque-là, effectivement, c'était Juliette que j'adore et qui m'a énormément
soutenue. Nous l'adorons.
Qui m'a énormément soutenue les deux premières années et qui est donc en fait la BFF de David, avec qui. On va reparler, avec qui j'ai fait le panel, parce qu'on va quand même commencer par parler de ça, le panel Buffy. Et du coup, et on s'entend très 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 bien avec Juliette, mais c'est vrai que toi et moi, on partage un cerveau, quoi. Donc effectivement, c'est rigolo parce que
partager le cerveau de Yaelka.
Non, mais il y a un truc où, quand on s'engueule dans notre vie quotidienne, je reviens là-dessus, c'est très souvent tu dis et on dit, non mais. Un des trucs qui arrive, c'est qu'on dit, tu finis par dire, oui, non mais on pense pas de la même façon, donc. C'est normal que tu entendes une information différente de moi. Enfin, tu dis très souvent ça. Tu dis très souvent que nos cerveaux sont différents. Et je suis complètement d'accord. Pour moi, nos cerveaux sont opposés. Jusqu'à ce qu'on rencontre d'autres gens.
Voilà.
En fait, nos cerveaux semblent opposés chez nous, mais dès qu'on sort de chez nous et qu'on voit le reste de l'humanité, on est là. Ah non, mais en fait, par rapport aux autres, on a un cerveau malléable.
Tu vois, on peut se c'est-à-dire qu'on est séparés, mais ça.
Et puis on réagit au même truc et du coup, il y a vraiment un truc. Ouais, on a les mêmes réflexes, ces trucs. C'est vraiment impressionnant et quelque part, c'est un peu le pari depuis le départ. Je me dis, mais je suis sûre que je suis censée bosser avec Marine, en fait. Et ça le prouve. Après, moi, il y a plein de trucs qu'on veut faire ensemble qui sont pas tous des trucs liés à l'événementiel. Mais après, je pense qu'il y a toujours une forme de storytelling, hein. Il y a toujours une forme de relation au public, il y a toujours une forme d'anticiper des choses, de besoins d'un public ou d'un guest ou d'un truc. Et il se trouve que, en plus, vous allez bientôt le voir, mais on a commencé à jouer avec l'idée de produire des petites vidéos et c'est rigolo parce que on sent qu'on est fait pour travailler ensemble. Et là, c'était vraiment cool de pouvoir le faire avec Comic-Con. Ou à la fois t'offrir cette opportunité de voir un truc que t'as jamais, auquel t'as jamais assisté, le partager avec toi, et en même temps que t'aies ce truc de l'intérieur et de voir la différence entre le moment où t'es dans le floor et tu regardes tous les gens déguisés, les machins et tout, et le moment où t'es en backstage en train de gérer un truc et que tu... Et de penser à des choses auxquelles personne ne pense dans le public. Mais c'est rigolo parce que chaque fois que je vais à Comic-Con, je pense à un podcast sur Comic-Con de San Diego qui avait été fait par Pop Culture Happy Hour il y a plusieurs années, où à un moment, Glenn Weldon, le mec qui a écrit le bouquin sur Superman et sur Batman, il racontait que lui, son motel était de l'autre côté de la rivière et du coup, le matin, il prenait un bateau pour arriver jusqu'au centre et que généralement, sur le bateau... tout le monde était déguisé de façon, et à chaque fois du coup c'était là, ah my people, et genre le dernier jour il y avait presque plus personne de déguisé et il y avait plein de gens, il était là, normals. Et je pense que c'est ça, il y a un côté, c'est t'arrives dans Comic-Con, t'es là, no normals allowed.
Ouais, ouais.
On a que des gens, alors plein de fantaisies radicalement différentes, mais il y a quelque chose de vraiment libérateur dans le fait d'aller à Comic-Con. Bon, alors on va faire des chapitres.
Ouais.
Au lieu de faire chronologie, parce que plus ça va, plus je me dis que la chronologie, c'est l'ennemi du storytelling. Enfin, ça fait longtemps que je me le disais, mais je trouve que même dans le podcast, c'est ça. Donc, on va commencer par, tout simplement, parce qu'il faut en parler tout de suite. Donc, le moment, Buffy. Parlons de Buffy, parce que, donc, il y a eu Pourquoi Buffy, c'est génial, mais en général, il y a eu un gros panel pour les 20 ans de Buffy, où c'était mes grandes retrouvailles sur scène avec David. Avec qui donc il avait créé l'association Ultima Art il y a 10 ans, qui a fait la première convention Buffy, dont les invités étaient Juliette Landau et George Genty, le dessinateur des comics principal. Or, cette année, Comic-Con a fait venir George à Paris, et ainsi que Rebecca Isaacs, qui est une des autres grandes dessinatrices des comics. Et il y avait aussi Julie Benz, qui joue donc Darla dans Buffy, surtout dans Angel, mais qui est quand même un personnage important de Buffy, notamment parce que c'est le premier personnage qu'on rencontre, c'est la première fille, c'est le premier vampire, et dans la première scène avant le générique du pilote que nous avons donc décidé avec David de commencer le panel là-dessus, de leur montrer cette première scène, de finir sur le générique, et pendant le générique de rentrer sur scène, et ensuite de commencer le panel des 20 ans de Buffy dans la grande salle, qui était samedi après-midi, et alors, c'était compliqué parce qu'en une heure, parler de Buffy, surtout avec une actrice et deux dessinateurs, c'était un peu particulier. David a vraiment trouvé des questions qui s'appliquaient à tout le monde.
Mm-hmm.
À chaque fois, j'ai posé la même question aux trois. En fait, en y réfléchissant, on a réalisé que... Enfin, il a réalisé d'ailleurs que la collaboration d'un dessinateur et d'un acteur avec des auteurs et des créateurs avait quelque chose de similaire en fait, parce que c'est des exécutants qui sont là pour réaliser une vision qui ne vient pas d'eux, donc quelque part il y avait quelque chose d'assez similaire, et puis après lié à la legacy, on va dire. Alors, on a essayé de faire un jeu comme dans notre chaîne YouTube, de les forcer à répondre à des questions compliquées en un temps limité, sauf qu'en réalité on s'est rendu compte que les gens qui font ce genre de panel sur scène, surtout en anglais, ils ont absolument aucun mal à tenir
bon, moins d'une chaîne YouTube, c'est quoi comme chaîne YouTube?
Buffy Slays 20, si vous regardez, merci Marine, si vous regardez sur le site, il y a un onglet Buffy où il y a tout mon contenu Buffy C'est vraiment ce que je vous conseille de regarder. Et donc voilà, on a eu donc ce panel, et donc il y a eu effectivement un moment de retrouvailles avec plein de gens qui sont liés au monde de Buffy, parce que c'est un peu la base de ma fandom, on va dire, en tant que fan et en tant que mes fans, d'où viennent mes fans. Et du coup, c'était un moment bien sûr particulier, très attendu, du coup très stressant. Et je pense qu'on a dû en plus terminer un peu sous les chapeaux de roue. Voilà, mais c'était quand même un joli moment symbolique.
C'est pas fini comme vous auriez voulu finir, en fait.
Parce ouais, que c'est ça.
On quand même le...
On a dû finir un peu en...
Un musical, tu voulais faire une voilà, surprise à la fin et qui n'a pas été faite. C'était une petite déception.
On voulait finir sur la dernière chanson du musical pour plus faire chanter le public. Et ouais. En fait, on n'a pas eu le temps.
Ça aurait été un bon final, quoi.
Ouais, c'était, et c'est un peu la déception. Mais bon, on était quand même contents de faire ça sur scène, sur ça ensemble, 10 ans plus tard, c'était cool. Alors toi, Marine, ton moment Buffy ou l'angle Buffy, on va dire, du week-end, parce que donc il y a eu plein de trucs liés à Buffy. Toi, t'es un peu moins connectée 24/24 avec la communauté Buffy-esque.
Non, mais ça fait.
Donc là, du coup, tu t'en es pris.
Le fait de ne pas à Paris et de pas avoir suivi toutes vos conventions, etc., vu que j'étais loin, m'a pas mis vraiment dans le bain, on va dire. Mais moi, mon meilleur souvenir, enfin pour cette convention, c'est Rebecca Isaac, en fait. C'est les dessinateurs qui... Enfin, j'étais très contente de rencontrer George, mais Rebecca m'a vraiment fait un... Elle m'a... She touched me. Enfin, elle est tellement...
C'est un vrai coup de cœur.
Ah oui, c'est un vrai coup de cœur. Elle est tellement vraie, en fait. Et puis, ça te montre toujours que c'est toutes ces personnes que tu peux idolâtrer et être fan sont finalement des gens tout à fait normaux. Et en fait, ça rend la fanitude à la, une sorte de réalité en fait et à une normalité en fait. Mm-hmm. Donc ça rend ton idole normale en fait. Et je sais pas si ça fait ça à tout le monde parce que quand tu rencontres Julie Benz pour les grands fans. C'est qui ? Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui est fan de Julie Benz, qui était fan de Julie Benz pendant qu'on était au Comic-Con, qui avait toutes ses photos avec Julie Benz.
Je ne sais plus. Tu bon. Penses à quelqu'un en particulier
que Oui, tu je pense que oui, je voulais que je voulais que tu dises, oui.
Je ne sais pas de qui tu parles, en fait.
Big M ? Hein ? Oui, Big M, voilà. Big M !
Là, on donne son vrai nom ou son nom sur Instagram ?
Ben non, c'est pour ça que je ne voulais pas non plus donner son vrai nom. Qui est sur toutes les photos, etc. Donc, ça serait bien de lui poser la question pour lui. Tu vois, la rencontre avec Julie Benz, si ça a rentré Julie Benz plus dans la normalité, en fait, ou si c'est toujours...
Une idée.
Même s'il c'est en photo chez lui, et que c'est partout. Mais c'est intéressant, quoi, de voir toujours les réactions des fans. Bon, après, Rebecca, moi, je ne la connaissais pas avant, donc c'est vrai que je savais qui elle était, mais je n'étais pas une fan, quoi. Mais c'est vrai que sa rencontre est mon meilleur souvenir par rapport à Buffy. Après, j'étais super contente de rencontrer Julie Benz. C'est toujours surprenant, quoi.
Mais après, il y a un côté... Enfin, justement, parce que moi, je suis habituée entre-temps, mais toi, ta fanitude de Buffy, elle a toujours été secluded. Enfin, tu vois, pendant la plus grande partie de ta vie, t'aimais Buffy, on aimait Buffy ensemble, mm-hmm. Mais t'as, enfin, tu vois, le côté tout le monde est fan de Buffy, où t'es entouré de gens qui font tout le temps des références à Buffy, ou qui parlent pendant des heures des pornos de Buffy. tu vois, c'est un truc nouveau, ça, tout d'un coup de tomber sur le club des Buffy
filles. D'en avoir autant d'un seul coup, ouais. Après, entendre des gens fans de Buffy, non. Je veux dire, je t'ai vu avec Carole, on a même regardé Buffy ensemble. Je t'ai vu avec David, je veux dire, enfin, et puis je me suis retrouvée à Paris dans des situations où Buffy a été un sujet assez
important.
Et
puis c'est vrai qu'on allait dans des concerts de James Masters quand même.
Aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la raison pour laquelle je vis à Berlin.
Oui, c'est grâce à James qu'on habite à Berlin. Un jour, on vous racontera. Si on vous l'a pas déjà raconté. C'est possible qu'on l'ait déjà raconté.
Bah dites-nous, vous nous direz si on vous l'a déjà raconté comme ça. On verra. Donc voilà. Voilà, ça c'est mon souvenir. C'est mon...
Ton Buffy moment.
Alors,
chapitre suivant. L'événement le plus attendu. Le panel où t'étais là avant, quand regardant le programme, tu t'es dit « Ok, celui-là, ça va être... »
Mes petits yeux de fan a fait genre...
Voilà.
Moi, c'était Jenny Bamber, enfin Battlestar Galactica. Grande fan de Battlestar Galactica, grande fan de, enfin grande fan de Jenny Bamber. Bah, comment on ne peut pas être grande fan de Lee Apollo Adama et donc ouais, c'est ce que j'attendais le plus. Et,
C'était le premier jour, c'était le vendredi à 13h15. Alors on l'a croisé le matin en arrivant. Il était là, donc on a demandé à le rencontrer. J'ai demandé pareil à son talent juste pour lui dire bonjour parce que j'aime bien les rencontrer en avance. Ça me permet de les mettre à l'aise. Bon, Jamie, c'est un peu particulier parce qu'il parle français.
Mais très bien.
Souvent, et d'ailleurs, je l'ai fait aussi avec Jamie, c'est une façon de leur montrer que mon niveau d'anglais, en fait. Parce que, vu que c'est des étrangers qui, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont probablement eu affaire à plein de Français, certains qui parlaient très bien anglais, certains moins, et donc, du coup, qui sont probablement. Enfin, je sais que c'est un niveau de stress qu'ils ont de pas exactement comprendre ce que la personne va leur dire sur scène, ce qui va se passer, voilà. Du coup, j'essaye le plus tôt possible de les rencontrer, de leur faire. De les détendre avec mon niveau d'anglais et un peu de les prévenir du contenu du panel, à peu près. Je vois assez rapidement si ça les intéresse ou pas. Selon les invités, il y a ceux où tu sens qu'ils ont besoin de savoir exactement tout ce que tu vas leur demander pour avoir préparé leurs réponses. D'autres, tu vois qu'ils sont là, ouais, ils s'en foutent complètement parce que ils s'en foutent complètement. Ils sont beaucoup plus dans le mode, je vais être dans le moment, je veux pas y réfléchir avant. Ça sert à rien. Et tu vois ceux que ça rassure, tu vois ceux que ça inquiète. Ça te permet de jauger le type de questions que tu peux ou pas poser. Et il se trouve que Jamie, j'avais plusieurs questions que je voulais lui poser en amont. Je voulais, lui demander s'il voulait qu'on fasse tout en français, ce qui était mon intention, mais je voulais, voilà. Donc je lui ai dit en français, comme ça on a plus le temps de parler. Je lui ai dit, du coup là je suis passée en anglais juste pour lui montrer, mais au cas où, mon anglais n'est pas un souci, et je vais parler un peu en anglais pour qu'il entende comment je parlais anglais. Ensuite, je lui ai demandé s'il voulait bien qu'on parle de Richard Hatch, parce que c'est l'acteur qui jouait Apollo dans la version originale de la série et qui jouait Tom Zarek dans la nouvelle version de la série. Et il est mort l'année dernière. Et je ne voulais pas en parler sans lui demander son avis. Je ne vais pas mettre une photo de lui sans lui en parler avant.
Tout à fait.
Et bien sûr, je l'appelais Robert Hatch. Et là il me fait Richard, et je fais la honte totale. Bon,
pas sur scène donc ça va.
Pas sur scène, non, en amont. Et j'ai fait oh my god.
Merci de m'avoir.
Désolée. Et je voulais savoir, c'est rigolo parce qu'après le truc c'est est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se voit sur scène. Et il m'a dit on se tutoie. Et c'est rigolo parce que dès ce moment-là, puis après j'ai un peu parlé du contenu, très brièvement juste pour qu'il ait une idée du type de thématique et de l'ambiance de la conversation. Et c'est très drôle parce que il avait l'air à ce moment-là, il avait l'air au début un peu, hyper content de ce que je lui disais et en même temps du genre parce que je m'inquiétais parce que c'était il y a longtemps Battlestar, je sais pas si j'ai des choses à raconter, je me souviendrai, enfin un truc comme ça. Et ça me donnait l'impression, ok, en fait, on va parler, je vais devoir beaucoup l'aiguiller. Je me suis dit, ok, je vais devoir vachement je vais devoir bien structurer la conversation et être là pour rebondir tout le temps, pour lui donner une direction dans ce qu'il a à dire. Et j'ai aussi apprécié tout de suite, parce que du coup je t'ai présenté bien sûr, et tout de suite après j'ai dit. Et il nous a tout de suite appelé les filles.
Oui.
Ce qui était assez.
À toutes les filles! À plus tard les filles!
Okay. Donc ça c'était le truc, ok. Là je vous donne mon background de Jamie, et ensuite. J'ai une amie qui l'a croisée aux autographes et qui m'a dit. Il m'a déjà dit que le panel serait super, qu'il venait de te rencontrer, que le panel serait super. Donc j'étais ok, bon, ça me sert à gamme. Et j'ai pas encore parlé de mes attentes parce que j'en parlerai plus tard, mais en tout cas ça c'était le contexte de ce panel. Et alors ensuite, donc ça c'était les attentes. Toi tu étais au premier rang, ma chérie. Comment était le panel du coup vis-à-vis de tes attentes? Comment il était?
Ah, le panel était absolument super parce que déjà, c'est vrai que le fait que vous parliez français tous les deux, en fait, ça fait gagner du temps. Donc finalement il a vraiment le temps de s'éterniser sur ses réponses. Et toi, ça t'a permis de pas avoir posé trop de questions, en fait, parce que finalement, il t'a permis d'aiguiller.
Oui, c'est ça.
Comment dire ça?
En fait, il m'a permis de pas avoir à lui poser de multiples questions sur chaque thématique et de pouvoir à chaque fois passer au chapitre suivant.
Tout à fait.
En fait, j'avais l'impression que j'étais pas du tout prête, mais en fait, j'avais assez bien chapitré. Selon moi, assez bien. En tout cas, j'avais vraiment chapitré la discussion avec des photos. Et j'avais vraiment les images qu'on avait. Et du coup, il y avait vraiment le côté... J'ai commencé par l'origine. J'ai commencé par le fait de découvrir le rôle. J'ai commencé ensuite... Ensuite, j'ai parlé de Richard Hatch. Ensuite, j'ai parlé de Starbuck. Ensuite, de la relation entre les deux. Il avait plein de trucs à dire, en fait, sur les trucs où j'étais même pas sûre de ce que... Où est-ce que j'avais une question. Du coup, et en fait, je suis en train de penser, j'ai pratiquement jamais posé de questions. Et quand j'en ai posé, il m'a pas vraiment répondu, en fait.
Non,
j'ai plus
introduit.
Évoqué des sujets et il a parlé dessus.
Oui.
Parce que quand j'ai posé une question précise, finalement, il a éludé la question précise pour me parler de choses qui étaient très intéressantes. Tu vois, par exemple, la seule question précise que j'ai vraiment posée, c'était si tu avais. J'étais contente parce que j'ai posé une question de science-fiction. J'ai dit si tu avais une machine à remonter dans le temps qui te permettrait d'aller te voir une heure avant que tu reçoives le script. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant? Et c'est rigolo parce que finalement il a dit plein de choses intéressantes, puis à la fin il a dit donc en fait ce que je dirais c'est lis-le. Tu vas pas être déçu du voyage.
Mais non, donc finalement c'est l'événement que j'attendais le plus et j'ai pas été déçue parce que ça finalement on a, comme t'as dit tout à l'heure, en fait il disait que lui, il n'était pas vraiment... ça faisait longtemps, Battlestar Galactica, donc il ne sait pas s'il va se souvenir de tout. Et finalement, quand tu le vois au panel, tu fais genre... il s'est foutu de notre gueule ou quoi? Genre, mais il se souvient de tout. C'est limite s'il n'avait pas... s'il n'a pas menti, en fait, quand on était dans le VIP Talent, qui nous disait qu'il n'était pas du tout prêt et qu'il savait tellement longtemps, etc. Parce que genre, il connaissait tout par cœur, quoi. Il était... et puis tu sens qu'en fait, c'est tout, tu sens qu'il a aimé ce rôle-là, qu'il a... C'est quelque chose qu'il a vraiment chéri, quoi. Enfin, cherish. Oui, chéri, on dit, ouais.
Et en même temps...
Tu tombes encore plus amoureuse de lui après, quoi. Genre,
Et en même temps, il parle très ouvertement de la bataille qu'il a eue avec les auteurs, du fait qu'il comprenait pas certains aspects de son personnage et qu'il était pas d'accord et qu'il a mis des années à l'admettre. Notamment, ouais. Il a parlé du fait qu'en fait... Dans le binôme Starbuck-Apollo, lui, il avait la part féminine.
Tout à fait.
Et qu'il avait du mal à l'accepter et qu'il passait son temps à demander aux auteurs de le rendre plus actif. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus actif? Pourquoi il ne fait pas plus de choses? Et qu'en gros, c'était quelque part pour lui un refus qu'il avait eu intérieur, une lutte interne vis-à-vis de cet aspect de ce personnage qui, en fait, au final, est très intéressant. Et c'est rigolo parce que c'est très... Ça montre aussi à quel point, quand tu travailles sur une œuvre comme ça... t'es pas toujours convaincu que c'est tout génial et que c'est tout parfait pendant. Et que c'est après, avec le recul, que tu réalises « Waouh, en fait, c'était vachement intelligent. » Et même ma lutte intérieure a peut-être contribué. Parce que lui, il avait l'impression que du coup, il disait « C'est dommage de pas l'avoir accepté, de pas l'avoir admis. » Parce que du coup, j'ai pas pu le mettre en valeur aussi bien. Et moi, je lui ai dit, bah, en fait, non. Enfin, moi, ce que je dis sur scène, je lui ai dit, bah, non, en fait, ça passe très bien. Et au contraire, on sent aussi la lutte interne qui nourrit, non, du coup, cet aspect du personnage. Parce que quelque part, le personnage a le même problème. Il a du mal à accepter ce rôle.
Et, ouais. Et ce qui est bien, c'est que donc, finalement, en tant que spectateur de l'événement, en fait, on apprend des choses déjà. Donc... ouais. Dire pour tout fan, c'était capable d'avoir des réponses et du plaisir à écouter la personne parce qu'elle t'apprend, enfin le fait son vécu va te donner vraiment des réponses par rapport à plein de choses.
Oui, c'est ça.
Parce que ça va souligner plein de problèmes, surtout pour une série aussi complexe que Battlestar Galactica. Genre, comment réussir à faire ressortir des choses intéressantes en une heure? Parce que ça
je vais revenir sur ce que ça représentait pour moi, l'inquiétude que ça représentait pour moi.
Le truc, c'est que ça il y a tellement de sujets compliqués, complexes, que finalement le fait que les spectateurs sortent du panel en disant tiens, j'ai appris ça et ça. Tiens, ça, je savais pas. Enfin,
et puis, c'est pas dans le genre anecdote de tournage. Positif. Ah, vous savez que quand on regardait, on était sur le vaisseau, en fait, ce truc-là était en polystyrène.
Oui, non, tout à fait. Non, c'est vraiment
des trucs de fond, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, c'était très bien pour en tant que spectateur, quoi.
Je reviendrai du coup vers la fin sur les inquiétudes que j'avais autour de ce panel, notamment le fait que de parler d'une série comme ça aussi marquante avec un acteur et pas un auteur.
Ouais.
Et jusqu'à quel point tu peux lui poser des questions de fond, en fait.
Ouais.
Et on
en parlera plus tard.
On va revenir dessus. Moi, le panel le plus attendu, donc, enfin, en toute honnêteté, hein, quand j'ai vu le programme et que j'ai vu le nom de Jamie Bamber, mon cœur a fait un petit bond dans ma poitrine. Parce que, en plus, j'ai des amis qui l'avaient déjà croisé, qui m'avaient dit qu'il était super gentil. En plus, il était dans Dollhouse. Enfin, bon. Mm-hmm. Et en fait, apparemment, il est fan de Joss Whedon. J'ai pas eu l'occasion de lui en parler. C'est David qui a réussi à lui en parler. C'est là. Ah ! Passons. Du coup, c'était un peu le guest. Mon petit cœur de fan était là. J'espère que je vais pas être déçue. Je suis très contente de lui parler. Mais on va dire le panel le plus attendu, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur et j'avais peur de comment ça allait se passer. Enfin voilà, c'était celui où j'avais envie de faire quelque chose de particulier, mais c'est aussi parce que c'est un panel que j'ai suggéré à Comic-Con. C'était le panel Wonder Woman. Je l'ai suggéré à Comic-Con parce qu'en plus c'était un panel qui, dès sa conception, était un panel de fond et pas d'invité. On avait des invités brillants, Carole notamment, mais aussi deux dessinatrices, Stéphanie Anse et Emmanuela Lupacchino, et donc Stéphanie Anse, elle a fait un Wonder Woman en 2011, et Emmanuela, elle travaille sur le nouveau le Wonder Woman actuel chez DC en tant que dessinatrice. Donc on avait des invités, mais le but c'était pas de parler de leur travail, le but c'était de parler de Wonder Woman, c'était de parler de ce qu'elle représente, de ce qu'elle a représenté, de comment on la voit aujourd'hui. Et j'avais une heure et c'était un gros sujet, et j'avais envie vraiment de rendre hommage un peu à cette icône de l'année 2017, et aussi quelque part cette découverte pour moi de l'année 2017, parce qu'entre la lecture de The Secret History of Wonder Woman le film, et écrire sur le film, et me replonger dans la série, et commencer à lire les comics et tout, les anciens, ceux des années 80, enfin vraiment c'était mon année Wonder Woman. Alors c'est pour ça que je dis ça à Marine, qui elle collectionne, à qui j'ai offert un milliard de trucs Wonder Woman pour son anniversaire, qui collectionne les trucs Wonder Woman. On est d'accord, c'est la...
pas de quoi tu parles.
Wonder Woman, c'était un peu le truc de l'année, quoi.
Complètement.
Et donc, du coup, je voulais vraiment faire ce panel, je voulais qu'il soit bien. Et du coup, ensuite, je me suis retrouvée avec un casse-tête qui est d'avoir Carole, qui a un regard analytique, historique, de cinéphile, de critique et de dessinatrice, et moi. Et trouver le moyen aussi, moi-même, de parler, tout ça. Vraiment, c'était un peu... J'avais beaucoup d'attentes, mais j'avais beaucoup d'inquiétudes aussi. Et en fait... J'ai encore assez peu de recul sur ce panel. Je dirais juste qu'on a dit plein de choses que je voulais qu'on dise, que je pense que j'ai fait passer plein de messages, que j'ai donné quelques détails sur l'histoire. J'ai précisé ce que je voulais faire. C'était préciser que c'était dès le départ un truc féministe, pensé comme un truc féministe de propagande. Montrer que ça avait un gros potentiel. Montrer qu'on l'avait tous connu très jeune et que ça avait toujours été féministe, mais qu'on s'en était peut-être pas rendu compte, que c'était un peu kitsch. Et qu'entre-temps, il y avait vraiment une redécouverte de Wonder Woman, comme quoi elle n'était pas quiche du tout, et c'était cool, en fait. Et je pense que les autres ont contribué à ça, aussi. Et je pense que c'est ce qui est sorti du panel. Toi qui l'as vu, ce panel...
Alors, moi qui l'ai vu, c'est... moi, la salle m'a dérangée, en fait. Le fait que ce soit la petite salle...
Tu vas parler d'abord des trucs que t'as pas aimés.
Laisse-moi parler, s'il te plaît.
C'est mon petit cœur de... Oui, vas-y.
Donc, la salle workshop est petite, donc ça met pas à l'avantage la présentation. Cependant, l'échange a été très intéressant. Malheureusement trop court, parce qu'une heure finalement ça suffit pas pour ce genre de surtout quand tu veux pas se faire passer un message aussi important que Wonder Woman, avec une personne qui parle anglais en plus, parce que vous étiez quatre, donc il y avait trois francophones et non, excuse-moi, je montrais quatre avec mes doigts, et une personne anglaise, donc c'était pas ça ralentissait un petit peu la conversation. C'était super intéressant parce que Carole, quand elle parle, en plus, elle est à fond, elle est genre... t'as du mal à l'arrêter de parler, ce genre... En fait, je pense que vous devriez faire un panel toutes les deux, tu vois, genre parler de tout ça. Ça ferait genre... bouillonnement sur ça, ça devrait être très intéressant, je pense.
J'ai enregistré un podcast seul avec moi et Carole sur Sweet Vicious qui dure 2 heures, que j'ai toujours pas réussi à monter parce que c'est faut que ça va me demander du temps.
Tout ce qui a été, enfin le fait que ce soit avec tous ces dessins de Wonder Woman, parce que t'avais ces deux télés qui te montraient l'évolution du personnage par les dessins, parce que c'était bien sûr le travail des deux.
Bah en fait, je commençais
il y en avait plus un.
En fait, d'ailleurs, je viens de dire, c'est Carole qui m'a aidée parce que j'avais pas le temps de récolter toutes les images, mais en fait, on avait des images des comics des années 40. Ensuite, on avait quelques images des années 60, 70, tout ça. On avait des images de la série, des images du film, et au milieu, j'ai rajouté des images du travail des deux artistes. Et en fait, j'ai fait un... Vu qu'on n'avait pas le temps de... Enfin, les écrans sont sur le côté, on ne peut pas les voir. Du coup, on n'avait pas le temps de parler précisément d'un dessin. Donc, j'en ai fait un loop, et j'ai demandé à la régie de les passer, en fait... juste de les passer dans l'ordre, mais de façon continue. Et donc, du coup, c'était une façon d'illustrer Wonder Woman et son évolution sur le côté, en background de la conversation.
Ah ben, c'était très bien, parce que comme c'est un sujet quand même très imagé par rapport... Parce que Wonder Woman, c'est Wonder Woman, quoi. Donc, il faut quand même qu'elle soit présente lors d'un panel sur Wonder Woman. Donc, et puis, de voir son évolution, l'évolution du personnage, ça donnait en plus
une
fondation par rapport à votre échange, en fait. Donc en gros ça aidait surtout par rapport aux dessinatrices, par rapport à ce qu'elles disaient, parce que enfin personnellement, quand tu parlais et quand Carole parle, je veux dire, sans image tu comprends tout.
Mais effectivement, Emmanuela parlait du fait que son costume maintenant était plus une armure qu'autre chose.
Exactement.
Ils ont donné plein de détails. Stéphanie, c'est rigolo parce que c'était moins ces détails sur Wonder Woman, plus en tant que femme et en tant que.
Oui, oui, mais en plus, comme je disais, elle a travaillé moins d'une façon plus courte.
Oui, et puis sur un truc en particulier. Ouais.
Mais finalement, ouais, elle a parlé plus de son expérience à elle par rapport à... Enfin, comment elle vivait Wonder Woman, quoi, en fait.
Et le fait aussi que toute la pression qu'il y avait eu sur le film et le fait que... elle a dit ce truc de... Ça m'énerve quand les gens disent « Ah, c'est bien que ce film ait eu du succès et tout », parce que c'est pas comme si un film fait par un mec sur un super-héros mec, s'il avait pas eu de succès, on aurait arrêté d'en faire. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait tant de pression sur ce film-là? C'est complètement ridicule, et on est tous d'accord là-dessus, c'était bien de le dire. Puis Carole a souligné plusieurs choses intéressantes. Elle a souligné le fait que dans Wonder Woman, dans les nouveaux comics Rebirth... Steve passe son temps à perdre sa chemise.
C'est vrai.
Et du coup,
oui, ça m'a fait pas mal.
Et du coup, elle a parlé du female gaze, et j'ai précisé du coup que dans le film,
c'est lui.
La seule personne qui a poil, c'est lui.
Ouais.
Et elle a dit ce truc, j'étais contente parce que c'est un truc dont je parle dans l'article que j'ai écrit pour elle dans Clap, qu'on a mis en ligne de façon pour tout le monde la semaine d'avant, donc je vais le mettre en lien sur ce podcast. Qui était que le message d'amour et positif de Diana dans le film, qui pourrait paraître un peu kitsch à la fin, est en fait un message hyper fort et hyper important. Et donc ça, j'étais contente qu'elle le dise. Donc voilà, c'était quand même...
Et après, je me souviens plus, on a eu des questions ? Il y a eu des questions après ?
Je crois qu'il y a quelques questions... oui, il y a une question sur la bisexualité, il y a une question
sur... Ouais, c'est
sur...
ça, non, parce qu'en fait, comme c'est moi qui m'occupais de donner les micros, et etc., je me souviens plus...
Je pense que tu faisais pas le micro pour celui-là. Si, peut-être.
Si, parce que c'était cette salle-là, et
il y
avait trop de monde, et il fallait pouvoir quelqu'un qui était devant, etc.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que moi,
parce que c'est ça, la dernière question, c'était Laurent Doucet.
Oui.
Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il a posé une question.
Je ne me souviens même pas, tu vois, parce que je...
On va parler tout à l'heure. En tout cas, voilà, moi, le plus attendu, c'était Wonder Woman, et ça va, et en même temps, j'arrive pas à avoir le recul nécessaire.
Non.
J'ai du mal à avoir le recul nécessaire pour tous les panels, en général. J'ai le même problème, parce que c'est de l'intérieur, t'es tout le temps en train de... Puis surtout, moi, je suis tout le temps en train de me poser la question de ce que j'aurais pu faire mieux. Du coup, automatiquement, quelle que soit la qualité du panel, je suis dans le doute, et donc, du coup, j'ai du mal à apprécier vraiment...
Oui, parce qu'en plus, c'est un sujet très important pour toi.
Ouais.
Donc, mais enfin, moi personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Et en plus, on va travailler dessus pour essayer d'en avoir un autre l'année prochaine. On va tout faire pour être en plus dans la masterclass. Donc, enfin, à partir du moment où c'était le premier et que ça va amener à d'autres, justement parce qu'il y a un tellement bon feedback par rapport à celui-là, que ça peut être que positif.
Je sais pas si je vais pouvoir vendre le fait de refaire un panel identique, enfin identique sur le même sujet, 2 années de suite.
Je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Oui, parce que Wonder Woman serait...
Parce que Wonder Woman, c'est Wonder Woman. Et puis, par contre, il faudra des invités différents.
Ouais. On va réfléchir à ça.
Tu veux dire qu'il faut avoir Gal
Prochain
Gadot.
Chapitre. Ben non, parce que Gal Gadot, on ne peut pas parler de Wonder Woman. On va parler de Gal Gadot, du coup. ce qui est normal. Mais le problème, ça, c'est plus le guest est important, moins on peut parler de fond. Enfin...
Oui.
Jusqu'à un certain point, tu vois. Mais... Chapitre 3. Le panel le plus surprenant, dans le sens le panel dont on n'attendait rien, et où en fait t'es là, ah oh, mais c'était hyper cool! Toi?
Moi, c'est le panel sur Batman, comics.
Donc c'est le panel qui s'appelait L'univers de Batman, avec 3 dessinateurs, Tim Sale,
Matteo,
Scalera et Dave Johnson.
Exactement, j'étais en train d'aller à Dave Johnson, ouais. Bon, après, on connaît tous Batman, mais après les comics de Batman, il y a tellement justement l'univers de Batman, c'est t'as le côté dark, t'as le côté enfin en noir et blanc, t'as le côté couleur, t'as plein de Batman différents, c'est vraiment super large quoi. Donc tu fais enfin
plus t'es en fin de journée, on avait 5 panels ce jour-là.
Ouais.
On sortait de donc, Buffy.
C'était un peu.
C'était à samedi, c'était. Donc on a fait un documentaire, on va parler. Ensuite on a eu Doctor Who, Wonder Woman, Buffy et on finit sur Batman. Donc on était un peu lessivés quand même.
Ouais, c'était un peu la super-héros day. J'étais super, enfin agréablement surprise par rapport à tout ça parce que les dessinateurs sont absolument génialissimes et surtout tu sens qu'ils se connaissent en plus. Tu vois, il y avait une sorte de c'est pas bromance mais limite.
Entre Dave et Tim.
Tout ouais. à fait. Et donc, tu sens qu'ils ont travaillé sur, enfin, ils ont travaillé ensemble, qu'ils se connaissent et qu'ils partagent plein d'anecdotes sur plein de choses. Chacun donne son opinion sur tout. Enfin, je veux dire, c'est.
Mais c'était une conversation.
C'était une conversation, tout à fait. C'était pas conversation with dead people, c'était conversation with Batman
people. Bah, il y a un truc que tu sens, et c'est pour ça que j'adore les artistes. Une des parties que j'adore à Comic-Con, c'est les dessinateurs, les artistes. Mm-mm. Parce qu'en réalité, tu sens que c'est une communauté.
Tout à fait.
Tu sens qu'ils se croisent, tu sens qu'ils travaillent tous plus ou moins chez eux, mais qu'ils se croisent en convention, qu'ils se croisent dans des retreats, qu'ils bossent sur des trucs similaires, qu'ils bossent avec des gens similaires. Et il y a un côté vraiment, mais c'est ce que tu ressens en général hein, chez les Américains, tu sens le principe tout le temps de la communauté, quoi. De toutes les communautés créatives. Et en fait, j'ai fait le pari, parce que c'était Batman, parce que c'était la fin de journée, parce que... il y avait beaucoup de fans, c'était plein. Là, ça a été plein. Vraiment, on était encore en workshop, mais franchement, Doctor Who, Wonder Woman et Batman, c'était à craquer.
À craquer, ouais.
Et
j'ai appris des photos des.
Et je me suis dit, je maîtrise pas l'univers de Batman autant que je voudrais pour ce truc, pour leur poser des questions incisives. J'ai mis leur travail. Du coup, j'ai mis leur travail, des images qu'ils m'ont envoyé de leur travail autour de Batman. Pareil, sur un loop, sur les télés. Et je me suis dit, je pense que faut que je laisse la parole aux fans.
Ouais.
Je pense que surtout pour le type de fans, ils vont pas demander « Ah, vous portez quoi comme sous-vêtements quand vous faites ?»
Non, tout à fait.
Parce qu'il y a toujours la hantise en convention de tous les gens qui vont poser des questions...
ridicules.
Voilà, questions personnelles, ou des questions tu vois, que t'as pas envie. C'est pour ça que t'essaies de contrôler beaucoup le temps de questions, parce que dès que quand tu l'élargis trop, tu te retrouves avec des questions absurdes. Et du coup, je me suis dit, ok, laissons parler les fans, laissons-les poser. Je vais poser des questions d'introduction pour un peu donner l'idée de quelle est leur connexion avec Batman. Et ensuite, je vais laisser les gens poser des questions. Et du coup, ça s'est vraiment transformé en une conversation. Et à la limite, moi, à un moment, j'étais là, est-ce que ça sert à quelque chose que je traduis? Parce que j'ai l'impression que tout le monde parle anglais. Puis ensuite, à un moment, j'ai traduit Magneto. Tu sais, il a dit Magneto. Mm-hmm. Et il y a 2 personnes qui ont rigolé et moi j'ai dit Magneto et là toute la salle a rigolé, j'ai fait ok,
il faut mieux se traduire.
mais du coup je rebondissais de temps en temps et je leur posais des questions, mais si tu couvais on avait vraiment l'impression que c'était un moment et je vais y revenir dessus, mais je comprends que c'était vraiment le moment un peu magique, inattendu, très
surtout comme tu dis c'était la fin de journée, donc nous on se disait juste allez encore une et après on peut aller se coucher pour le lendemain, tu vois. Et en gros, c'est genre, waouh, allez, prends une petite claque dans la gueule, quoi. C'est super, franchement génial.
Et la blague, c'est que j'avais passé toute la semaine à faire une blague sur le fait que, vu que je maîtrisais pas Batman, j'allais faire tout le panel sur Ben Affleck.
Oui.
En disant, vous l'êtes détesté, moi je l'adore. Et en fait, ironiquement, le sujet, ironiquement, quelqu'un a demandé à Dave Johnson, quel est ton Batman préféré? Est-ce qu'il a dit, ouais, le bon film de Batman n'a jamais été fait pour l'instant, c'est pour l'instant, c'est hyper décevant, enfin, c'est assez décevant, mais en général, les adaptations sont assez décevantes, je préfère regarder d'autres trucs que les trucs de super-héros. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un qui dit, ok, mais même si c'est décevant, de tous les acteurs qui ont joué Batman, lequel pour vous se rapproche le plus de ce qu'il devrait être? Et il a fait Ben Affleck. Et moi j'étais là, yes! Okay. Et c'est rigolo, vous étiez tous d'accord avec lui!
Bah oui!
Et j'avoue qu'il y avait un côté assez fantastique. Et c'était aussi d'accord avec le fait que pour l'instant les films d'ici étaient ratés par rapport aux films Marvel. Et il y a quelqu'un, et moi je dis, ouais, enfin Wonder Woman, et là, c'est moi qui l'ai dit, il me semble. Et là, il a dit, ah oui, non, Wonder Woman, c'était génial. J'étais là, oh, d'avoir des vieux de la vieille, dessinateurs qui ont 30 ans de carrière, qui sont fans du film Wonder Woman, ça me fait trop plaisir. Quoi. Donc ouais, c'était vraiment un moment. Et puis tu sentais qu'en fait, du coup, on était entre fans, en fait.
Tout à fait.
Parce que eux-mêmes, c'était pas tant sur leur travail de Batman qui parlait que du rapport à Batman.
Non, tout à fait. Mais on aurait pu se croire dans un café, on avait une discussion.
Avec juste c'était, des gens qui connaissent
vraiment. Parce qu'en plus, ils avaient, même si c'était eux et les questions étaient pour eux, ils avaient vraiment un échange avec le public, en fait.
Ouais.
Et tu voyais qu'il y avait un respect mutuel par rapport aux fans. C'était très agréable à voir. C'était vraiment genre, let's go, have a bite. Ta-da-dum.
Ouais, alors moi, ma surprise, mon panel qui m'a le plus surpris dans son succès, c'était Harry Potter. Parce que j'avais Hugh Mitchell qui jouait Colin Creevy dans une scène, bon j'exagère un peu mais presque pas, du deuxième film, et Victor Krum, Stanislas Janevski qui joue Victor Krum dans le quatrième film, et j'avais très peur du contenu, j'avais très peur de comment ça allait se passer sur scène, j'avais peur du direction des fans, voilà.
Et puis en deux, fait, et puis deux surtout.
Oui, c'est deux. Pas exactement. Surtout que Hugh Mitchell, apparemment, il n'avait pas fait beaucoup de choses, de conventions.
Oui, t'as vu le truc.
Il était un peu nerveux et tout. Ouais. Putain, il était trop nickel. Smart, trop gentil, super, parfait, ouais. Bien répondu, super bien joué le jeu.
C'était bien différent.
Ils ont tous les
très
deux
différents,
hyper bien joué le jeu quand même. J'étais hyper contente parce que mon truc de que tout le monde donne sa maison de Harry Potter, à chaque fois qu'il pose une question, il donne son nom de maison. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien réussi.
Moi, ça me perturbe toujours d'entendre des trucs en français parce que c'est vrai que si tu grandis avec Harry Potter en anglais, si tu grandis avec Harry Potter en français,
et tu fais coup de souffle. Watch. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait énormément de Slytherin.
Ouais.
Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y avait vachement de Slytherin.
Ouais.
Et parce que Marine est contente parce qu'elle est Slytherin.
Moi, je suis Slytherin.
Moi, j'ai commencé à applaudir pour tout le monde et j'étais là, non, moi, je suis Ravenclaw, faut que j'arrête d'applaudir quand c'est...
Je suis le serpent.
Mais non, franchement, c'était hyper sympa. Et il y a plein de gens qui, plusieurs personnes dans les jours qui ont suivi qui m'ont dit, ah, c'était super le panel Harry Potter, merci. Je pense qu'aussi, ils ont senti, une fois de plus, ma fanitude. J'ai trouvé aussi une connexion entre les deux personnages. J'ai quand même trouvé que Colin était un fan... Et Victor Krum était un personnage dont Harry était fan. Enfin, dont les personnages étaient fans. Et que du coup, il y avait tout un truc autour de la fandom, autour de leurs deux personnages. Donc, ouais. J'étais là, regardez, tout a un sens, tout est connecté. Non, mais pour moi, ça montre que J.K. Rowling, elle pense à tout.
Tout à fait.
Et que l'univers est extrêmement riche. Donc voilà, ça, c'était mon petit coup de cœur à moi. Enfin, pas mon coup de cœur, mais ma surprise panel. Ah, en fait, c'était vachement sympa. Alors, maintenant, le guest coup de cœur. Inattendu. Vraiment, la personne où t'es là, cette personne, je n'avais jamais entendu parler avant, et maintenant, son nom me reste, quelque chose que cette personne a dit me reste. Voilà. Toi ?
Moi, c'est Max Harin. Vous savez pas qui c'est, hein ? Eh ben non. Qui est finlandaise et qui est une dessinatrice qui a de Giant Days et aux éditions Aquileos. C'est ça, Aquileos ?
Aquileos,
oui. Aquileos, ouais. Et qui était présente pendant notre tout premier panel. Excuse-moi de dire notre. Le tien, mais bon, c'est... It's a bit mine too. Notre premier panel, la diversité dans les comics. Et elle est absolument génialissime. Après, il y a aussi Jeff Stockley. Stockley ?
Oui, c'est ça.
Stockley, ouais. Qui faisait le Beffroi, qui a dessiné le Beffroi. Aussi, Aquileos. Mais en tout cas, Max Harin... Elle est absolument génialissime. C'est-à-dire que c'est une nana... donc, elle est queer, c'est ça ?
Je ne sais pas si elle est queer. Elle s'intéresse au
Queer. Parce qu'en fait, elle, son personnage dans Giant Days...
En fait, un des personnages de Giant Days se révèle... découvre son homosexualité, il me semble. Mm-hmm. Ou sa bisexualité. En tout cas, à un moment. Mais en tout cas, elle bosse sur un comics à elle. Parce que Giant Days, elle bosse pour quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, elle dessine, mais c'est pas son comic.
Non.
Mais donc il y a un comic pour lequel qu'elle est en train de créer, où dedans il y a deux personnages principaux, il y a une femme trans et une femme lesbienne, et t'es là.
T'as le titre de comics.
Non, elle avait pas encore le titre. Et c'est un mystère. C'est un truc de.
Et ça va être chez Akileos, tu penses aussi?
Bah, Akileos, c'est l'éditeur français.
Oui, c'est l'éditeur français. Ouais.
Donc faut déjà que ce soit publié en Finlande.
Non, bon, faut la suivre en tout cas, Max, Sarine.
Elle était juste dans le panel, elle était genre, quand elle parlait, elle était là, genre, ouais, genre, bon, bah, je prends le micro pour dire un truc, mais en fait, je veux dire un truc hyper fort et hyper puissant.
Non, mais elle a souligné plein de choses qui fait que, par exemple, en Finlande, dans la langue finlandaise, tu n'as pas de distinction entre le il ou le elle, entre la féminité et féminin et masculin, quoi. Donc, et que surtout, il y a encore vachement de racisme en Finlande, en fait. Ce que je ne savais pas. Surtout que t'as cette image en fait de la Scandinavie avec surtout par rapport à la Suède, qui est vachement plus open.
Alors qu'en fait, la Suède aussi, toute la Scandinavie est apparemment très 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 raciste.
Ouais ouais.
Et malgré tout un truc, mais d'ailleurs dans Millennium, ils en parlent beaucoup en fait de ces questions de racisme. De toute façon, tout le Millennium est basé sur le fascisme, le racisme latent dans le pays, tu vois.
Non, tout à fait, mais c'est super intéressant et voilà, enfin surtout elle émane quelque chose qui est juste fascinant, quoi. C'est une personne fascinante. Donc c'est vrai que quand je pense à Comic Con, c'est une des personnes qui me reste vraiment dans la tête, quoi.
Et j'aurais voulu avoir le temps de lui faire signer un truc, mais bon, j'avais rien.
Ah oui, non, mais après, c'est vrai qu'on a eu un manque de temps. Certains pour de fanitude, comme oui. Tu dis. Donc, voilà. Et toi?
Et alors, donc, oui, et donc, il y avait donc Jeff aussi, il était assez
jeune. Oui,
c'était une addition de dernière minute, le petit mec blanc et qui était là. C'est un peu compliqué quand même de parler diversité en tant que petit mec blanc, mais c'est important que ce soit important pour nous aussi, il a fait des super réponses.
Mais lui, on a eu la chance de le recroiser après.
Ouais. Et on lui a reparlé. Mais on va parler tout à l'heure un petit peu plus de ce panel de diversité qui était quand même un moment assez particulier.
Ouais, tout à fait.
Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais préciser pourquoi. Mon invité coup de cœur, c'était un des dessinateurs de Batman. C'était Tim Sale. Tim Sale, alors en fait, parce que à plein de niveaux, quand je lui ai dit bonjour avant, en plus que je l'ai croisé, à plein de niveaux, il fait grumpy old guy.
C'est clair.
Et donc, du coup, je me suis dit, ok, il va me faire des réponses de grumpy old guy. Et en fait, et c'est grave parce que c'était même pas mes questions vu que je laissais la parole aux fans, mais en gros, quelqu'un a posé la question. Pourquoi est-ce que vous croyez que Batman est tellement plus complexe et surtout psychologiquement borderline, presque fou, par rapport à tous les autres DC, personnages DC ou super-héros DC ou grands super-héros? Et ce qui est rigolo, c'est que donc ils ont commencé à parler de l'obscurité, le machin. Là, là, là. Et Tim Sale a dit, je suis pas d'accord qu'il est complexe. Je suis pas d'accord qu'il est plus complexe que Superman. Je suis pas d'accord que le fait de taper sur des gens, d'avoir une tragédie dans sa vie et de taper sur les gens la nuit, ça le rend
plus complexe.
Et j'étais là, il dit c'est pas très complexe, c'est très cliché comme attitude. Et Superman est peu, enfin en tant qu'orphelin, en tant qu'alien,
a
toute une partie beaucoup plus complexe. Et moi j'ai, enfin tout aussi complexe et pour raconter des histoires tout aussi fortes. Et j'étais là, ah oh, c'est tellement agréable d'avoir un grumpy old guy qui comprend que l'obscurité n'est pas gage de qualité. Que l'obscurité n'est pas gage de profondeur. Voilà, je dirais rien d'autre, j'ai juste c'était un vrai plaisir. Et en fait, chaque fois qu'il réfléchissait, qu'on lui posait une question et qu'il disait un truc, il réfléchissait vraiment à ce qu'il disait. Il avait une vraie. Je sais pas, j'étais là, ce mec est intelligent, ce mec est intéressant. Et d'ailleurs, lui aussi, il a dit du bien de Ben Affleck, parce qu'il a dit oui, je sais pas s'ils vont le faire, mais quand il parlait de faire un film, il disait que le film que lui il veut faire, c'est un petit film de détective et c'est exactement ce qu'il faut faire avec Batman. Et j'étais là, ah, oh, toi aussi, t'aimes Ben Affleck. Non, il était. Il était vraiment... Non, je sais pas. Ouais. Non, parce qu'en fait, ne pas aimer Ben Affleck est tellement un truc à la mode. Ou dire du mal des acteurs, des machins et tout, que je trouve ça toujours intéressant quand les gens sortent du moule. Mais en général, tu remarqueras que quand même, même s'ils disent qu'ils aiment bien faire des trucs sombres et des trucs violents... Enfin, non, d'ailleurs, c'est celui qui aimait les trucs sombres et violents, c'est l'Italien, Matteo. Mais les deux autres, les Américains, tu remarqueras que même s'ils ont l'air hyper cool et qu'ils font des signes Batman et tout, les dessinateurs artistes américains sont vachement plus positifs, sunny. Ils ont beaucoup moins le côté « Ouais, je suis un artiste torturé, moi j'aime les trucs » que les artistes européens.
Ouais.
Tu vois, il y a un côté vachement genre « Ah, c'est fun, les comiques, puis c'est censé être positif et on s'en sait s'amuser et tout. » Et t'as pas ce truc, ouais, du « L'artiste maudit ».
Non, c'est clair.
Et je trouve ça assez agréable quand même. Mais bon. Donc moi, c'était Tim Sale, mon coup de cœur.
Ouais, ouais, pour moi, je vous dis tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé aussi.
Alors,
on avait envie d'aller manger avec eux après.
Hein?
On avait envie d'aller manger...
C'est totalement vrai. Et d'ailleurs, je l'ai remercié le lendemain, je l'ai retrouvé, je l'ai remercié. Il était là, ok, genre... C'est bon, j'ai rien dit de pâtissier particulier, je suis là, ok, never mind. Mais bon, il était gentil. La réponse la plus punchy. Donc, chapitre 4. Le truc que quelqu'un a dit sur scène et qui était le plus où t'étais là, oh putain, je m'attendais pas à ce que tu dises un truc comme ça. Donc, je dis punchy, mais genre, waouh, je m'attendais vraiment pas à entendre ça aujourd'hui.
Tu commences ?
Tu veux que je commence ?
Ouais, okay. Vas-y, on change un petit peu.
Alors, moi, c'était Julie Benz. Pour la simple et bonne raison, en fait, parce que ta réponse à toi me convient aussi, hein, c'est juste que je veux pas qu'on ait la même, mais moi, Julie Benz, elle venait d'arriver quand on a fait le panel Buffy, et tu sentais qu'elle était, elle est arrivée le matin, et elle avait passé toute la matinée à faire des photos, des autographes, des machins et tout, et tu sentais qu'elle était fatiguée. Et donc, avec la meilleure volonté du monde, le panel Buffy, c'était compliqué pour elle. Enfin, je pense vraiment. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Ouais. Elle a joué le jeu, elle a fait le truc, elle a fait rire les gens, justement, en faisant des petites réponses et en disant des trucs... Et en disant des trucs, quand même, surprenants, notamment sur le fait que Angel, les scénarios d'Angel n'étaient jamais finis d'écrire avant le début du tournage de l'épisode, où j'étais là, ah, tu t'expliques. Mais c'est rigolo, parce qu'à quel point ils retombaient sur leurs pattes, mais ça explique quelque chose dans the urgency qu'il y a dans Angel. Il y a toujours un côté expérimental dans Angel, t'as l'impression effectivement qu'ils savent pas où ils vont, mais du coup qu'ils vont dans des endroits fous et passionnants, et en fait ça explique beaucoup de choses. Bon. Mais du coup. J'avais un panel d'une heure sur sa carrière et j'étais un peu... je savais pas trop à quelle sauce elle allait me manger, entre guillemets. Et en fait, j'étais surprise par la facilité avec laquelle elle s'est retrouvée à vraiment parler de trucs. Je l'ai lancée, c'est un peu comme Julie Bummer, en fait. J'ai lancé sur des thématiques en lui posant une petite question et ensuite, elle a embrayé sur un truc qu'elle voulait dire sur le sujet. Tu vois, à la fin, quand j'ai parlé de Defiance... Je lui ai montré une scène et elle a dit oui, la scène, machin. Et puis ensuite, elle a tout de suite embrayé sur d'ailleurs, je détestais ce que je portais, je voulais pas porter ça, d'ailleurs, ce personnage. Elle a commencé à dire des trucs. Elle s'est vraiment libérée. Et notamment sur Dexter, pour le coup, pendant les questions-réponses, où quelqu'un lui a demandé ce qu'elle avait pensé de la mort de son personnage. Et elle a dit un truc assez fort. Donc, spoiler alert, mais de toute façon, voilà. En fait, Dexter fait pas partie des séries que je recommande. Elle a en gros dit qu'il l'avait prévenu à la dernière minute que pour elle c'était un peu une tendance générale de producteurs de télé de en fin de saison vouloir faire un truc choquant et en se demandant quel personnage on va tuer, généralement toujours se demander, enfin en gros dire bon on peut pas tuer le personnage principal masculin, on peut pas tuer les 5 autres mecs qui sont dans la série, donc tuons une nana. Elle dit et c'est tout le temps une des nanas qui tue et elle trouve ça hyper énervant. Et c'est vrai que je suis d'accord que les personnages féminins sont toujours les... T'as l'impression que c'est ceux qui sont les plus disposables, ouais. Ceux dont on peut se débarrasser le plus facilement ou c'est moins important. Et en fait, et elle dit d'ailleurs à la fin de la série, toutes les femmes importantes sont mortes et tous les hommes ont survécu.
Ouais.
Et c'est vrai que, voilà, ça m'a encore moins donné envie de redonner une chance à Dexter. Mais c'était hyper franc et hyper fort. Et tu sentais le côté... ça fait un certain temps que je suis dans ce métier et j'en ai marre d'être maltraitée en tant qu'actrice. Et j'ai trouvé ça fort et important et cool qu'elle le dise, quoi.
Non, c'est clair.
Donc c'était mon truc genre « Wow, ok !»
Non, et puis elle l'a bien...
expliqué, ouais.
Bien expliqué.
Mais c'était pas un mouvement d'humeur. Elle a bien raconté le truc, elle a bien... Je trouve que de ce panel-là, on est ressorti un grand professionnalisme Et un grand truc aussi à chaque série où elle parle de quel est mon rôle dans la série. Tu regardes la série, la thématique de la série, tu comprends le but de ton personnage, à quoi sert ton personnage. Et ça, c'était cool qu'elle se pose la question.
Oui, parce qu'après, elle a même parlé de Defiance, du fait que elle voulait pas porter les fringues.
Oui.
Genre oui, c'est ressembler ça. À ressembler genre une, limite à une bohémienne, et en fait, elle voulait porter un pantalon et avoir une superbe.
C'était génial parce que j'avais des photos que j'avais préparées pour Defiance et j'ai montré la photo.
Ouais, ouais.
Alors qu'elle disait, oui, ce truc, ça a été fait par un grand designer et j'ai refusé de le porter après, je l'ai porté qu'une seule fois.
Ah oui.
Et elle dit, et là, j'ai mis la photo pile à ce moment-là et elle a regardé la photo, elle fait, oui, c'est ça que je voulais porter. Je voulais avoir une cool leather jacket, une veste en cuir cool, parce que j'en ai marre que ce soit toujours les personnages masculins qui ont des vestes en cuir cool. Je voulais moi aussi une veste en cuir cool.
Elle voulait être un strong woman character, enfin, genre un truc. Quelqu'un
et d'ailleurs,
qui,
elle a parlé aussi dans la saison 3, ils étaient perturbés avec son personnage parce qu'elle avait plus de romantique, d'histoire romantique potentielle. Mm-hmm. Elle était là, ouais, enfin, on peut faire qu'en semblant que c'est un personnage masculin et qu'elle a peut-être pas besoin d'une histoire romantique du tout.
Non, non, et puis de travailler les amitiés féminines.
Ouais, ça, mais ça, elle l'a dit et ça, j'en parlais aussi. C'est vraiment un des trucs que j'aime dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de relations. Enfin, Defiance, c'est vraiment une série qui mérite d'être vue. Du coup, j'ai regardé les 8 premiers épisodes avec Alix du week-end parce qu'elle l'avait jamais regardé. Et c'est vraiment une série dont les personnages féminins sont passionnants. Les histoires entre nanas sont très intéressantes.
Tout à fait. Enfin, faudrait que je regarde un peu plus, j'en ai pas vu beaucoup.
Okay. Mais franchement, c'était voilà. Donc, ça, c'était voilà. Et toi?
Moi, ma réponse la plus punchy intéressante, c'est Jamie Bamber, lors du panel que tu as présenté.
Mm-hmm. C'était un peu mon moment magique à moi aussi, mais je voulais te le laisser raconter de l'extérieur.
Et en gros, tu as choisi un extrait à passer lors du panel. Tu vas pouvoir en parler un peu plus, parce que oui. C'est son extrait, enfin, tu vas pouvoir en parler même un petit peu mieux que moi, mais moi, je veux juste donner mon ressenti par rapport à ça. En même temps, non, tu devrais plutôt expliquer. Vas-y, explique l'extrait, en fait, parce que ça sera plus simple.
Donc, je me suis posé plein de questions sur comment j'allais parler de machin et tout. Et un des trucs que je voulais faire ressortir, c'était, parce que c'est le truc que je dis le plus sur Battlestar Galactica, c'est à quel point c'est universel, à quel point ça parle de notre monde, à quel point à l'époque ça parlait de... Enfin, à l'époque, j'étais hallucinée, parce que c'était la série la plus politique et la plus punchy, justement, sur l'Irak et tout ça. À travers plein de choses, pour en parler pendant des heures, mais voilà, c'était quelque chose de très... Il y avait un message politique, éthique très très fort. Ça parle aussi de religion et de croyance, mais je trouvais que la réflexion sur comment tu fonctionnes, comment tu crées des lois ou pas, comment tu fais tourner un gouvernement où la survie est à la base, comment tu recrées une civilisation, en fait, je trouvais ça vraiment passionnant, surtout à notre époque où on a l'impression qu'on est en train de le faire. Je pense que les prochains mois, je vais revoir tout Battlestar Galactica, parce que je pense qu'avec 15 ans de décalage, il y a vraiment une vision différente à avoir des choses et de tirer les leçons de la série aujourd'hui. Et en fait, je cherchais un moment révélateur de ça, et puis peut-être un truc de où l'écho serait vraiment pertinent par rapport à aujourd'hui, en fait. Justement, que c'est pas juste qu'est-ce que c'était subversif par rapport à la politique de l'époque, mais qu'est-ce que ça a du sens universel encore aujourd'hui. Et je réfléchissais à des moments emblématiques de Jamie Bamber, et du coup, je me disais, ah, mais il y a le... Je me rappelle que tout le truc du procès de Gaius Baltar à la fin de la saison 3, donc pour trahison... pour crime contre l'humanité, en fait. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Je crois que c'est crime de guerre qu'ils disent. Je me rappelais que c'était un moment vraiment intéressant. Et donc, j'ai commencé à chercher les trucs et je vois la fin du procès dans l'épisode 20 de la saison 3, donc Crossroads Part 2. Et dedans, en fait, à la fin du procès, l'avocat fait témoigner Lee, qui était en fait son assistant, et le force à témoigner parce qu'il sait qu'il est contre l'avis de l'amiral son père et de la présidente qui sont d'exécuter Gaius Baltar. Et donc il pense que la meilleure défense de Baltar, c'est d'entendre l'opinion de Lee. Et donc il le fait aller témoigner. Et donc je regarde la scène qui fait 4 minutes 48 et j'ai failli la passer. Puis finalement j'ai essayé de passer que les 2 minutes 24, littéralement la moitié de fin de son témoignage. Et en gros, dedans, il parle de l'injustice de vouloir punir Gaius pour leur péché à eux. Il parle du fait qu'ils pardonnent plein de choses à plein de gens, et que, en gros, la raison pour laquelle ils ne veulent pas pardonner à Gaius, c'est que Gaius, il ne l'aime pas, Et donc, c'est facile de lui faire porter le chapeau pour toute leur culpabilité et toute leur honte collective. Et je me suis dit, waouh, c'est comme un truc, c'est un message tellement fort parce que j'ai exactement l'impression que ce qui se passe sur Internet ou dans la presse, dès que quelqu'un fait un faux pas, enfin, tu vois, le côté le plus simple, c'est Weinstein est un salaud, sauf que tout d'un coup, pendant la première semaine, ça a beaucoup changé depuis, mais pendant la première semaine, c'était comment ce monstre a-t-il pu vivre au sein de notre société, alors qu'en réalité, son comportement était un comportement qui était peut-être extrême chez lui, mais qui était quand même hyper présent dans la culture en général. Et la façon de dire, c'est toi le mal, et de ne pas se poser une question. Et moi, ça fait des années que je le pense dans la façon dont on surréagit, notamment contre des gens. Tu vois, le fait qu'on reproche, qu'on dit que Tarantino est raciste parce qu'il utilise des termes dans ses films qui sont problématiques, alors que justement, c'est le sujet de ses films. Et qu'en gros, c'est facile de dire « Ah, mais Tarantino est raciste », plutôt que de se poser une question sur le racisme internalisé du langage. Et pour la misogynie, c'est pareil, de dire que Joss Whedon est le pire misogyne de la Terre parce qu'il a trompé sa femme, au lieu de se poser des questions sur la misogynie systémique qui pousse les hommes à plus facilement tromper leur femme que le contraire. Ah, tu vois.
Ouais.
Et pour moi, j'étais là, putain, ça parle de tout ça. Je me dis, bon, et je me dis, allez. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais pas passer plusieurs extraits. Donc je me dis, ok, je vais passer cet extrait-là. Et j'en ai vaguement parlé en amont, mais je vais pas préciser quelle partie de la scène. J'ai juste dit, c'est vers la fin, c'est le procès, c'est le moment où. Et je vais juste donner un peu mon analyse pour qu'il sache. Et il a dit, et le truc qu'il avait dit en amont, c'était, ah ouais, c'est intéressant de voir un angle nouveau sur ce dont ça parle. Et du coup, j'ai fait quelque chose que je fais rarement, c'est qu'avant de passer l'extrait, j'ai expliqué l'extrait. J'ai donné des clés. J'ai dit au public, je vous demande de regarder cet extrait en pensant à tout ce que je viens de dire, en pensant à la façon dont notre société traite la colère collective. Comment notre activisme fonctionne, comment notre société voit ce genre d'action. Et du coup, je voulais colorer, en fait, la perception du public. Et donc, ensuite, vas-y.
Donc, ensuite, donc, l'extrait est passé. Et tu te retournes vers Jamie. Et je ne sais pas si c'est directement ce qu'il dit.
Non, directement, il était un peu quiet. J'étais étonnée. Quiet. Tu vois, je pensais qu'il allait faire « Qu'est-ce que c'est génial !»
Je pense que tu as reparlé un petit peu.
Ouais.
Et finalement, il souligne le fait que cet extrait, c'est quand même marrant que tu prennes cet extrait parce que c'est quand même l'extrait qui montre que, enfin, c'est les dialogues. J'ai écrit ces dialogues là en fait. Je veux dire, c'est l'extrait, c'est moi qui ai écrit cet extrait quoi. C'est moi quoi. Genre, tu fais genre what? Et là, il explique d'une façon beaucoup plus compliquée en fait, parce qu'en fait, il disait qu'il avait il n'était pas d'accord sur ce qui avait été écrit, en fait.
Il n'appréciait pas
la façon dont c'était dit, en fait.
Non, c'est pas ça qu'il a dit. Parce que ce qu'il s'est passé, c'est que... Donc, ce qui était très drôle, c'est sa première réaction, c'était « Oui, c'est vrai que ça parle un peu de nos sociétés, machin. » Tu vois, mais il n'était pas très... Je ne trouvais pas assez enthousiaste, vu comment c'était brillant comme extrait. Et après, quand je lui ai insisté, il dit « Non, mais c'est drôle, en fait, c'est bizarre, parce que c'est... » Oui, c'est ça, c'est... En fait, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Genre, et moi, ouais. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est que la scène était écrite. Il y avait un autre texte, et c'est pas tant qu'il l'appréciait pas, c'est qu'il avait l'impression que son personnage avait quelque chose à dire.
Tout à fait. Mais le truc qui était intéressant aussi, c'est qu'il a dit que the take qui a été faite, en fait, c'est, il a dit, vas-y, ben, fais-le, quoi, en fait.
Tu me dis pas ton texte, tu me dis rien, tu le fais, je te filme.
Et il l'a fait, en fait, je sais plus si ça, il y a eu qu'une take.
Si, je crois.
Mais je crois qu'il y a eu qu'une take, mais en fait, il a fait son speech qu'il a écrit, et c'est ça quoi, et c'est vachement fort quoi et c'est genre waouh.
Mais donc, c'était magique, le côté de sur 4 saisons et demie, j'ai pris un truc au hasard, enfin au hasard, pas au hasard, mais j'ai décidé de prendre un truc, et en le revoyant, j'étais là, mais c'est tellement génial, et putain, et c'est lui qui l'avait écrit quoi.
Ouais,
c'était fou.
Non, c'était super, enfin je veux dire, tu aurais voulu le faire exprès, tu n'aurais pas réussi, quoi. C'est vraiment genre... Ah ouais, quand même. Genre... Tada. Et voilà. Puis après, il disait qu'il écrivait déjà un truc. Il écrivait un livre, une nouvelle, ou je ne sais pas. Enfin, un truc qu'il n'arrivait pas à finir.
Un scénario,
oui. Enfin, du moins, ça fait un moment qu'il l'écrit, mais il finit jamais, etc. Et, Donc c'est bien, tu lui as donné ta carte, sauf s'il avait besoin d'aide. Genre, by the way, je suis si consultant. Tu veux, je suis consultant.
Et là, il fait, attention, je vais t'appeler, j'ai fait, oui.
En plus, il habite à Aix-en-Provence, c'est très bien, à côté de chez mon papa.
Par contre, il parle français. I'm just saying, he could be listening to us.
I hope.
Du coup, on parle anglais.
Oui, donc c'est pas donc tu habites à côté de chez mon papa.
Ce qu'elle n'a pas voulu dire pendant la convention parce qu'elle avait peur que tu trouves ça un peu chelou qu'elle te le précise.
Voilà, juste au cas où. Bon,
non, c'était vraiment super. Et voilà, pour moi aussi c'était un moment complètement magique, complètement ouf, j'en ai parlé à tout le monde, c'est juste que voilà, c'était pas le seul, mais c'est vrai que j'avoue que ce moment-là, j'étais ok, donc en fait, ce panel est vraiment réussi.
Oui, il était vraiment réussi, et le truc, c'est que toi, bien sûr, tu as cette expérience où tu dis que tu as trouvé l'extrait qu'il fallait et que tu pouvais pas en trouver un autre et que c'était genre juste parfait, mais tu as aussi le côté donc spectateur des gens qui regardent le truc et tu fais genre, what?
Oh!
Exactement, genre, je. Ben moi c'est ma vision, après je pense que tout le monde était un peu genre.
Non mais Alix, pour le coup, généralement je monte toujours mes extraits à l'avance parce que je l'utilise un peu comme sounding board, et là vu qu'on en avait parlé
à toi. Ah oui, elle était là, c'est vrai.
J'ai pas du tout
C'est derrière moi.
J'ai pas du tout montré l'extrait pour lui garder la surprise.
Ouais.
Et du coup, elle a vraiment dit que le speech que j'avais fait avant, que justement que je fais pas d'habitude, qu'il a surpris sur le coup, que je dise pensez à ça en regardant l'extrait. Et en fait, elle dit que c'était hyper efficace parce que du coup, effectivement, on voyait pas que un extrait d'une série qu'on aime, on voyait toute la métaphore qu'il y avait derrière. Ah, nous pourrions parler de Jenny pendant des heures, mais passons au chapitre suivant.
Oui.
Alors, chapitre 5, le world de la gentillesse. Parce que quand même, c'est des gens.
C'est
6,
hein, mais c'est pas grave.
Ah bon ? 1, 2, 3, 4. D'accord, j'ai pas donné le nom du.
C'est pas grave.
Chapitre 6. Le world de la gentillesse. Donc, parce que quand même, on est 3 jours pleins avec plein de monde qui sont tout le temps en train de courir à droite, à gauche, de faire plein de trucs, de faire machin. Donc, à qui nous décernons, parce qu'en fait, on est d'accord, le world, donc le grand prix de la gentillesse de ce week-end.
C'est Poppy Drayton. Qui Absolument. Est donc. Qui est
Amberlee dans The Shannara Chronicles,
les chroniques de Shannara. Et c'est juste un amour en fait, première rencontre. Bon déjà tu vois, c'est cette petite nana toute frêle, toute qui a l'air toute douce en fait, et tu te dis c'est une actrice donc elle peut avoir cet aspect là mais ça peut être une vraie panthère à l'intérieur et une tigresse qui va te bouffer. Ça veut rien dire quoi. Et en gros premier contact, son visage s'illumine, elle sourit, genre hey, et genre tu fais genre ok, genre.
Elle a commencé à nous donner des hugs très très vite.
Ah oui, très vite, genre très tactile, très adorable, mais vraiment genre. Et tu te dis bon, c'est le premier, c'est le premier jour, elle vient d'arriver, puis c'est, on l'a pas encore, elle est pas encore sur scène donc. Elle est peut-être comme ça là, et puis sur scène, elle va peut-être pas forcément être aussi gentille, etc. Et ben, si.
Généralement, si. Hein. C'est plus, ils sont gentils sur scène et pas hors scène.
Oui, enfin bon. En tout cas, moi, c'est mon ressenti au départ. Enfin, je me dis, oh, peut-être que finalement, ça veut rien dire. Et que quand t'es dans ton interview, finalement, tu peux voir des petits trucs.
Ouais.
Tu pars d'entier dans des directions où tu fais genre ah ok, ah tu penses ça, ah non. Donc sa gentillesse allait aussi avec sa personnalité et son et surtout she's really smart.
Oui oui c'est ça, elle a donné des super réponses.
Donc et le truc c'est que après son panel, elle est arrivée un peu en avance, donc en plus elle s'est assise, elle s'est cachée avec toi, on lui a donné de l'eau etc, elle papotait, elle était genre genre limite she's a friend, tu vois, oui. Genre c'est notre copine, on est en train de discuter et puis relax quoi, enfin toute simple etc. Et il y a eu tout ce truc avec la bouteille d'eau.
Oui, parce que j'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau parce que Marine a pris 2 bouteilles d'eau et j'ai supposé que c'était une pour moi, une pour Poppy, mais non c'était une Poppy pour elle et du coup moi ma bouteille d'eau je l'ai pas prise.
C'est moi ça y est, alors je suis la méchante.
Oui absolument.
Non et du coup, je te l'ai donnée. Tu avais ta bouteille avec toi, sweetie, tu l'as posée. I give it to you.
Oui, mais pour moi, je l'ai posé et du coup, quand tu l'as pris, je pensais que c'était.
Oui, je l'ai dans la main, je l'ai dans la main. L'autre, j'ai changé sur scène.
Oui, mais vu que j'ai reposé, moi, j'ai pensé que t'allais la prendre. Bon, passons.
Donc, le fait, en fait, elle s'est assise.
J'arrive sur scène, j'ai assez rapidement mal à la gorge, enfin, je commence à tousser et du coup, je cherche ma bouteille d'eau et je réalise que je n'ai pas de bouteille d'eau.
Elle la voit sur
le bas. Et du coup, je me dis, bon, je vais y aller. Et Poppy, elle fait, non, mais si tu veux, j'y vais. Je fais, non, mais c'est bon.
Et elle se lève.
Elle se lève et elle va me chercher ma bouteille d'eau. Et alors là, comment vous dire, le public, c'est bon, ils étaient conquis.
In love, complètement quoi.
Mais je pense que tout le monde, hein, toute l'équipe, j'ai surpris Jessica et Pierre-Yves, les grands sorciers de Comic-Con, hein, à qui on va envoyer plein de bisous à la fin. Je les ai surpris dire à Poppy, non mais t'étais la plus sympa de tout le week-end, on t'adore.
Non, puis en plus elle était venue avec sa famille, elle était venue avec son père, sa mère, sa sœur, c'était vraiment genre, c'était, et puis qu'ils sont aussi adorables quoi.
Non, et c'était vraiment super. Les cloches.
Ah oui, les cloches.
C'était vraiment... Il est 11h.
Non, il est midi, sweetie.
Il est midi.
Il serait 11h et ça, on n'est pas dimanche, on est lundi.
D'accord.
Donc, ça sonne moins.
Spoiler
en semaine.
Alert.
Ah, tu avais dit qu'on était dimanche. T'avais menti.
Non.
Ah bon.
Je ne mens jamais dans ce podcast. En tout cas, c'était vraiment hyper cool, hyper sympa. Et puis, c'était très sympa de parler de Shannara Chronicles, qui est une série que j'aime beaucoup. Et puis, il y avait vraiment un truc de pouvoir parler de ce que je trouve génial, qui est le triangle amoureux parfait, où t'as envie que tous les membres du triangle soient... Enfin, que les trois combinaisons de couple sont des super combinaisons.
C'est vrai.
Moi, je voudrais donner le second prix.
Oui, le second prix.
Le runner-up à Ricky Lecôté et Chris Donio, qui sont les deux specialty costumers, enfin set costumers, c'est ça. Qui sont donc les gens qui, notamment sur les films.
C'est design.
Oui, mais ils font pas du design,
ouais,
justement.
C'est le nom du truc. En fait. Ah oui, c'est costume.
Ouais. Oui, c'est costumer, justement. Enfin, ils font du design. Alors, c'est des grands noms du cosplay. Donc, ils font énormément de design dans leur propre boulot. Mais aussi, ils participent à des films Marvel, et entre autres, à Atlanta, parce qu'ils viennent d'Atlanta. Où là, pour le coup, ils sont les gens qui sont sur le plateau, sur le tournage, pour s'occuper des costumes spéciaux et pour être capables de les maintenir, de les réparer, voilà, de faire un tas de choses. Et ils étaient adorables, tous les deux. On est dégoûtés parce qu'on a raté Ricky le lendemain en fée clochette.
On l'a vu en photo, mais on aurait aimé vraiment faire une photo.
Parce que j'adore la fée clochette.
C'est Big M qui a fait une photo avec lui, avec elle, je crois.
Ouais. Et donc Ricky était adorable, Chris aussi, on les a recroisés après. Ils étaient tellement gentils, tellement passionnés, tellement mignons. J'adore le fait qu'elle croyait, qu'elle a raconté qu'elle a cru qu'elle avait inventé le cosplay
<C'est vrai. rire>
chez elle quand 15 ans plus tôt et que le jour était avec conscience, c'est ah, y a d'autres gens comme moi. Et j'adore aussi le fait que elle vient d'une ville si petite que la première fois qu'elle a vu un feu de circulation, elle avait 12 ans.
Oui, et quand ils s'amusaient, c'était pour sortir, aller voir...
La sortie familiale, c'était d'aller à la décharge voir les ours se battre dans les déchets. T'es là, ok.
C'est bien.
Donc, non, ils étaient vraiment hyper discrets. Lui, Chris, notamment, hyper discret. Puis j'aime beaucoup, je parlais du processus créatif. J'ai dit, c'est quoi votre processus créatif? Et ils font, on s'engueule. On s'engueule au début, on s'engueule au milieu, on s'engueule à la fin. Et non, c'était hyper... ils étaient hyper sweet.
C'est très rassurant pour nous, d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
C'était
un panel du premier jour qui était très technique. On est quand même rentré beaucoup dans... Je leur ai demandé de raconter des détails de construction et je n'avais aucun mot du vocabulaire en français. Heureusement, il y avait une jeune fille au premier rang qui passait son temps à lever la main et à me donner les mots. Thermoplastique. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est.
Ah, c'est bien. Là aussi, ça aurait pu durer plus longtemps, quoi.
Ah, c'est clair. C'est clair.
Une petite demi-heure en plus aurait été bien pour
parler technique.
Pour parler technique.
Ouais.
Parce que, mais là, la salle se présente, était bien parce que c'était assez petit.
Ouais.
Et une grande salle, ça aurait un peu tué la vision du truc. Quoique, en même temps, sur le grand écran, les trucs, ça aurait été
bien. Ouais, je pense que c'était bien la salle workshop.
Ouais.
Donc voilà, alors.
Et surtout, on les a revus après.
Oui, on leur a donné. Ils étaient là. On veut essayer d'aller trouver comment on peut aller voir Thor. Je fais. Ne vous inquiétez pas, j'ai une application sur mon téléphone. Vous pouvez le voir à 22h à tel endroit. Du coup, j'espère les recroiser pour leur demander leur avis, même si nous, on n'avait pas encore vu le film.
Mais, bon,
mais on l'a vu depuis.
C'est bien, le fait de les avoir vus à l'extérieur, c'était quand même aussi cool, quoi.
J'ai dit, on l'a vu depuis, mais ils s'en doutent, vu que notre intro, c'était... Je suis désolée pour celui qui était en train d'écouter ça sur ses écouteurs. Alors, chapitre 7. Mais c'est parfait pour un chapitre 7. Le moment « What the fuck ?» Le moment WTF, le moment où t'es genre, que se passe-t-il? Comment c'est que, what?
Où est-ce What the fuck?
Voilà, c'est ça.
What the fuck? Alors, je pense qu'on a le même.
On a, bah en fait, c'est le même panel. C'est deux éléments du même panel. Donc, c'est le premier panel qu'on a fait en plus vendredi. Donc, bonjour. Déjà, c'était à 11h et c'était vendredi.
Donc, je commence.
Voilà. Donc, dire d'abord le... donc, moi, je te dis, je donne le contexte. C'était le panel sur la diversité dans les comics où j'avais 6 intervenants, 3 francophones, 3 anglophones. Donc il y avait deux de nos coups de cœur quand même, Max et Jeff. Il y avait aussi un mec qui s'appelait Josh Dysart qui est un américain qui était passionnant aussi, hyper réfléchi sur ces questions-là. Il se trouve qu'il a toujours parlé dans son travail de gens autres que lui. Il a dit, moi je suis au top de la non-diversité, je suis au top de la norme, je suis un homme blanc hétéro-américain. Enfin, avec un privilégié en tout cas, et je pense pas qu'il est riche, mais bon. Et donc du coup, il a parlé
il est bien.
Ouais, et il se posait plein de questions hyper intelligentes et tout. Et une des raisons pour lesquelles il était là, enfin, il avait fait plein de trucs apparemment que je connaissais pas sur des enfants soldats en Ouganda, mais il a aussi, il fait partie aussi il a créé un comics, enfin il a repris un comics qui s'appelle Harbinger. Dedans, il y a la première super-héroïne plus size qui s'appelle Faith. Et j'avoue que voilà, c'est très
génial,
cool.
Ouais.
Et il y avait 3 francophones, dont David, mon cher et tendre David, qui parlait un peu de Fusion Man et qui parlait aussi de sa contribution à Love is Love.
Mm-hmm.
Et j'avais deux autres francophones qui avaient contribué, deux autres français qui avaient contribué à des dessins de Love is Love. Donc c'est un... je vous mettrai le lien, mais c'est en gros...
c'est le chat qui passait. Vous avez entendu un... C'était le chat qui courait.
Donc, c'est un comics qui a été créé aux États-Unis après Orlando pour plein d'artistes, notamment des artistes qui ne sont pas des artistes de comics. Il y a Matt Bomer, le comédien, et plein d'autres qui ont écrit des trucs autour d'Orlando pour en faire un comics et pour que tous les bénéfices... reviennent à des assos en soutien aux familles des victimes du shooting d'Orlando. Et là, ils en sortent une version française avec la traduction de ces trucs-là, plus des trucs qui ont été faits par des artistes français, et dont il y a une page Fusion Man écrite par David et dessinée par George Genty, dont on a parlé tout à l'heure, Buffy. Et donc, j'avais ces intervenants-là. Et j'avoue que le côté... on a une heure pour parler de la diversité avec 6 personnes dans 2 langues étrangères et ils sont tous blancs. Alors, bien sûr, la diversité, pour moi, c'est aussi les femmes, c'est l'homosexualité, c'est plein d'autres choses. Et puis, je trouve surtout que les gens qui sont du côté du privilège doivent aussi parler et se poser des questions sur la diversité.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un côté casse-gueule. Donc, voilà. Donc, je m'inquiétais un tout petit peu. Au final, je trouve que le panel était très intéressant. On a dit plein de choses. Mais...
moi, j'aurais changé peut-être une ou deux personnes par des nanas, en fait. C'est genre, je les aurais juste... Why? Pourquoi ils sont là? Donc, il y avait ce dessinateur français qui s'appelle Phil Briones. Mm-hmm. Philippe, mais il s'est fait appeler Phil, parce que c'est plus cool.
Qui était sur le point de partir vivre aux États-Unis, d'ailleurs.
Ouais, bon, le pauvre, il va en souffrir. Et qui, quand tu lui as demandé... la première question par rapport à la diversité dans les comics, enfin, c'était un peu expliqué, quoi.
J'ai commencé par un petit speech en disant que le mot diversité, c'était un mot compliqué et que certains, notamment issus de la diversité, n'aimaient pas ce mot parce qu'ils trouvaient ça trop réducteur et trop, enfin, ils voulaient pas en faire un problème ou un truc. Enfin, en gros, j'ai dit c'est à la fois censé être hyper positif comme idée et en même temps ça a aussi un revers de la médaille. Donc, je voulais leur demander à tous d'expliquer comment eux ils se plaçaient par rapport à cette question et cette notion. Et donc on avait 4 personnes qui ont répondu avec un truc un peu de genre, la diversité c'est quoi pour moi,
quelle est ma diversité, t'as David aussi, il est pas étranger.
Quel est mon rapport, quelle est la diversité qui m'intéresse, pourquoi c'est important pour moi. Donc, tu vois, par exemple, il y en a une qui disait Max a dit, pour moi la diversité c'est parler des gens au compte des formes de corps différents, pour moi la diversité c'est parler des femmes, machin. Jeff qui a dit moi la diversité, c'est parce que tu montres à quel point la réponse de Phil est arrivée au milieu de nulle part, et Jeff a dit ce panel est très blanc, c'est un peu problématique pour cette discussion, mais c'est important que nous aussi on ait la discussion. Et je pense que la diversité, il faut penser au fait que c'est pas que de la représentation, c'est pas que ce qu'on met sur la page, c'est aussi ce qui se passe derrière la page et qui fait la page. Et j'étais là, Jeff, I like you. Ensuite, t'as donc David qui a parlé de Fusion Man, de la diversité en termes de représentation aussi de soi-même, de se retrouver
tout à fait.
De parler d'autres sujets et tout. Et
Et Josh, c'était...
Et du, non, et surtout de faire passer des messages politiques et sociaux importants, parce que même si on voudrait vivre dans un monde utopique, voilà. Josh, il a parlé du fait qu'il ne sait pas trop pourquoi il s'est toujours intéressé aux autres, mais pour lui, la fiction et la narration vit chez les plus faibles.
Voilà.
Donc ça, c'était le contexte, donc
les quatre réponses. Et là,
Phil.
Phil qui dit... Ah ouais, moi, je croyais qu'on parlait de la diversité graphique.
En fait,
alors, première réaction,
il a dit,
c'est...
Oui, c'est, cette conversation est très politique. Ils ont donné des réponses très politiques, moi, alors qu'en fait... En fait non, parce que ça, il dit, en fait... Et puis il a dit, non, mais en fait, je pensais qu'on allait parler de diversité graphique.
Genre, déjà, tu te renseignes si tu fais partie d'un panel, Ben non, mais tu fais la diversité dans les comics. On aurait dit la. Moi, je me suis tiré les cheveux. J'ai dit non, mais c'est quoi cette connerie. Et en gros,
moi, en tant que animatrice du panel, je me suis pas tiré les cheveux. J'ai fait OK. Tu déménages dans 3 jours. Tu n'as pas eu le temps de te pencher complètement sur ce truc. Donc on va faire avec ce que tu dis. Et effectivement, c'est une autre forme de diversité.
Mais en fait, il a dit ça. C'était bref. Il était passé à l'autre assez rapidement, quoi.
Non, il a.
Il
parlé,
a continué il a, après. J'ai oublié. Moi, c'est le seul truc que ça m'est resté. Non, parce qu'il a pas parlé de love.
La plus
love is love encore.
Non,
hein, c'était après encore.
Il a dit tout un truc. Oui, moi, je pense la diversité graphique parce que bon, les labels, tous ces trucs.
Oui, il a parlé de ce qu'il voulait parler.
Bah, en gros.
Du graphique.
J'essaie de pas dire du mal des invités de Comic-Con. Mais non, non, mais il a dit oui. Bah, en gros, tu sentais qu'il fait partie de ces gens qui voient pas complètement. Qui pensent que, en fait, les discussions autour de la diversité sont des discussions qui créent des problèmes plutôt que d'essayer de les résoudre. Et c'est pour ça que t'as dit qu'il va aller souffrir aux États-Unis, et je pense que c'est vrai.
Ah, c'est clair.
Je pense que il fait partie de, enfin, il y a plein de gens comme ça qui pensent à ça en France. Et puis une fois de plus, il est là en tant qu'artiste, il est pas là en tant qu'activiste. On aurait espéré qu'il ait pensé ce truc-là et que du coup, il n'ait pas été dans un panel où le but était de parler de politique, enfin de questions sociales. Donc automatiquement, de questions de société et comment les questions de société étaient traitées dans les comics. Donc clairement, le casting était. Mais je pense que tu vois. Il a contribué à Love is Love. Je pense que c'était une évidence pour tout le monde que ça allait bien se passer et que lui, il a pas eu le temps d'y réfléchir, machin, et qu'il y a eu un malentendu, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que tout d'un coup, ce que t'avais au milieu de mon panel, j'avais quelqu'un qui représente cette espèce de désir monolithique d'indifférence vis-à-vis des questions de diversité avec, mais c'est la croyance dans l'universalité. Les croyances, si on croit aux valeurs universelles, on n'a pas besoin de se poser des questions sur les différences.
Mais,
et je trouve que c'est naïf. Mais bon. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait. Mais c'est vrai que ça fait un peu quand même le moment what the fuck. Et puis surtout, moi j'étais là. Comment je traduis ça aux autres membres du panel qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer sur scène.
Tu es très gentille.
Bah, j'étais très gentille.
Tu étais très gentille. Non, mais même là, t'es très gentille.
Mais non, mais c'est, du coup, j'ai.
Tu as raison. Tu ne sais pas qui est-ce qui peut écouter le podcast.
Du coup, j'ai décidé d'associer ce truc qui avait rien à voir avec la choucroute en disant que la diversité, c'était aussi d'apporter de l'étrange, d'apporter de l'autre. En fait, la diversité, c'est aussi l'altérité, en général.
Ouais, tout à fait. Non, non, mais tu t'es très bien sorti.
Et voilà.
Et puis, donc... il a rajouté une deuxième couche après, enfin, une deuxième couche plus douce, mais quand on lui a demandé de parler de son travail dans Love is Love, où il nous explique son...
Oui, dire
son dessin,
non, moi,
et puis genre tu fais
oui,
genre...
on m'a demandé à contribuer, mais c'est pas représentatif du reste de mon travail.
Genre, non, mais c'est genre... Mais... Sois content, enfin je veux dire, sois fière de ce que tu fais. Enfin, je veux dire, c'est genre, tu te rends pas compte de l'honneur que t'as de faire ça, quoi, mais genre.
Et en fait, sa page.
Faut faire passer le truc en lui disant qu'il faut pas qu'il travaille sur une deuxième fois, quoi, parce que c'est pas possible.
C'est ironique parce que sa page est une. C'est un dessin d'enfant dans une maternelle, hein, et le texte, c'est un truc genre, rappelez-vous avant qu'on comprenne les différences, le ghetto, quand on était tous enfants et qu'on était tous. Qu'on s'en foutait de quelle couleur on était, de qui on était, nos identités. Et. C'est mignon qu'il dise ça, parce qu'il dit « Oui, moi, je voulais rappeler cette innocence, machin et tout. » Et moi, j'avais... Enfin, je l'ai pas dit parce que je voulais pas... Enfin, j'avais pas confronté au milieu du truc, mais... Je pense que, clairement, c'est sûrement son expérience de l'enfance, mais je pense que s'il avait...
Petit blanc.
S'il avait pas été un petit garçon blanc, il aurait peut-être vécu différemment, tu vois. Et du coup, je trouve ça d'une naïveté. Mais c'était... en même temps, c'est tellement représentatif de quelque chose qui existe.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que le côté ah on n'avait pas de label quand on était petit, et il y avait un peu une idée de à la fois quand on est petit on n'a pas de label, et aussi dans les années 70-80 on se posait pas ce genre de questions et c'était plus cool.
Ah ouais.
et c'est pas vrai.
Non, non, tout à fait. Non, non,
mais ça montre le regard, enfin, ça montre comment il faut, enfin, d'où il faut prendre les gens pour avoir ces discussions-là. C'est que les gens qui ne sont pas concernés par ces sujets-là, c'est qu'il faut savoir qu'ils viennent de là.
Mmh, tout à fait.
Bonne leçon de vie.
Ouais, ouais, mais en même temps.
Après, il y avait aussi J.L. Masque, qui était assez gentil, assez sympa.
Oui, il était gentil.
Le dernier français, parce que j'ai cité tous les autres, donc je voulais.
Oui. Tu as fait sans. Qui a souligné aussi le fait qu'il n'y ait pas du tout de gens de couleur.
Sur le panel, ouais.
Sur le panel, pour une diversité, c'était quand même assez. Machin, comme je voulais dire, c'est pas nous qui avons choisi. Hein. Je veux dire, on est juste là, quoi.
C'est vrai que ce panel-là, c'est.
Mais c'était quand même. Mais surtout, c'était le premier, quoi. Donc c'était genre un peu la. Allez, on commence et genre.
Et d'ailleurs, mon moment what the fuck à moi.
Ah oui.
Est arrivé dans le même panel, pas de mes chers invités, mais dans le public. Où d'un moment, Max a parlé donc de son futur comics avec un personnage transgenre. Et donc, un des trucs qu'elle disait, c'est qu'elle a une femme lesbienne et une femme transgenre. Et elle disait, mais en fait, c'est pas le sujet du tout du comics. Le comics, c'est un thriller mystère. Je sais même pas si c'est un truc d'horreur ou un truc comme ça, un truc mystère et tout. Il dit, c'est juste que les personnages, eh ben, en fait, il se trouve qu'ils sont, qu'il y a une femme lesbienne et une femme transgenre. Mais c'est totalement pas le sujet, et c'est comme ça qu'elle a envie justement de traiter la diversité.
Que ce soit une normalité, quoi. Elle veut que ce soit, ça rentre.
C'est ça. Et d'ailleurs, David a précisé que pour lui aussi, en fait, il voulait faire son comics comme ça, sauf que vu que lui, il a commencé avec un Fusion Man, le comics, au moment où la manif pour tous, il s'est retrouvé à avoir une trame ultra politique, parce qu'il s'était là, je peux pas en parler, quoi. Parce que l'idée, c'est complètement à des deux diotiques qui soient gays. Non, en fait, non. Et du coup, première question, un jeune homme. Oui, vous avez parlé, donc en français, parce que du coup j'avais le plaisir de devoir la traduire pour la finlandaise. Oui, vous avez parlé de transgenre, mais il y a aussi maintenant, on parle de gens qui sont agenre. Et je voulais savoir si vous ne pensez pas que le mot travestissement serait plus approprié.
Faut vraiment qu'on ait une petite cloche.
C'est le moment d'atterrir. Genre.
Je crois qu'il y a eu un léger silence dans la salle, en plus, genre.
Viens-tu vraiment poser cette question? Et donc moi, premier truc, parce que je trouve que c'est, je suis pas là, enfin, c'est pas parce que je suis pas là pour donner le son que je peux pas pointer du doigt à la personne qui vient de poser la question pourquoi sa question est problématique. Alors je pouvais pas complètement rentrer dans pourquoi sa question était ultra insultante et homophobe et enfin homophobe anti-humaniste. C'est même pas une question d'homophobie. Enfin après clairement tu sens que ça vient de l'homophobie, mais bon c'est un truc complètement enfin bon passons.
Si tu écoutes, tu te.
Je pouvais pas lui expliquer. Je pouvais pas lui expliquer ça. Donc ce que je me suis permis de lui dire, c'est déjà ça avait rien à voir avec les comics sa question. J'avais été en train de demander pourquoi on utilisait un mot plutôt qu'un autre socialement. Ça n'a aucun sens. En plus, il parlait de agent, qui est un truc que lui, dont lui, il a parlé. C'est pas comme si elle avait parlé sur le panel de ça. Du coup, moi, je lui ai dit tout de suite, bah, en fait, ta question, c'est plus une question de société qu'une question de comics, non? C'est, enfin. Et il a fait oui, c'est vrai. J'ai fait bon, bah, du coup, je vais l'adapter. Du coup, j'ai quand même traduit. La question que j'ai posée à Max, c'était bon, vous avez parlé de transgenre, mais il y a aussi des gens agents, parce que je voulais quand même garder cette partie de la question. Juste parce que, en fait, par respect. Et je dis, cependant, comment est-ce qu'on fait quand on essaie de dessiner, de créer quelqu'un qui ne correspond pas à une définition stricte et qu'on essaie justement de ne pas être spécifique, mais qu'on doit quand même créer un personnage. Et du coup, elle a répondu, et c'est là qu'elle a parlé du fait que de toute façon, par rapport au genre, il y avait un truc différent pour la Finlande parce qu'il n'y avait pas de pronom masculin féminin. Exactement. Et du coup, c'était genre waouh, j'arrive pas à croire que cette question-réponse, un truc intelligent est sorti. Waouh!
Et le mec avait l'air content après.
Oui, parce qu'après, du coup, en traduisant la réponse, je me suis tout de suite dit, genre, let's address the elephant in the room, tu vois, je vais pas faire semblant que j'ai pas dit ce que j'ai dit. Donc je me suis permis d'élargir la question pour la simple et bonne raison aussi qu'en fait, il n'y a pas vraiment moyen de poser une question langagière dans une langue étrangère. Enfin, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, parce que plus, j'avais même pas pensé dès le départ, mais c'est vrai que clairement, il n'y a aucun sens au fait de poser une question sur comme le terme qu'on dit en français à une finlandaise.
Tout à fait.
Et en plus, travestissement, ça va pas du tout. Enfin bon, ça va pas la même. Il y a pas d'équivalent classique. Enfin, passons. Ça marche pas. Et non, mais j'avoue que j'étais là. Putain, ça va être chaud le week-end, quoi. Non, parce que c'est. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai envie de laisser de la place aux femmes, j'ai envie de laisser de la place aux questions. Et quand t'entends des trucs comme ça, en fait, c'est hyper gênant d'être la personne qui traduit en plus.
Ouais.
Parce que quelque part, ça vient de toi, du coup. Et du coup, c'est vrai que j'essaye de. Voilà. Enfin, donc, c'était le moment What the Fuck. Donc, les deux moments What the Fuck, c'est quand même le premier panel sur 13. Voilà. Mais bon. Je pense qu'à la fin, il y a quand même des trucs sympas et intéressants qui sont sortis.
Ah, bien sûr, c'est pas juste. Il y a eu quelques trucs. C'était, il y a juste eu ce petit dérapage qui a fait genre what the fuck. Mais sinon, le reste est super intéressant.
Ouais, c'est des choses qu'on s'en est vraiment bien senti.
Non, et puis tout le monde a
personne.
Ben, surtout que à partir du moment où l'autre parlait pas trop finalement. Et que c'était Jeff en plus disait qu'il était que c'était pas vraiment quelqu'un qui parlait finalement. C'est celui qui a parlé le plus. Je veux dire, et puis non, c'était super. Enfin, franchement, le panel était super intéressant.
Et ça m'a vraiment.
Mais c'est vrai que le début des questions, ça fait genre. Enfin, il y a eu des petits moments où tu te sentais juste. Il y a une mouche qui passe, quoi.
Chapitre 8, que j'ai appelé le moment de solitude de Yael. Donc, ça, c'est plus un moment de solitude en perspective, on va dire. Et donc, c'est le moment où. Alors, donc d'abord, je voudrais te demander à toi, le moment où tu t'es dit. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, après la question.
Ben, moi, là, ça a été le premier panel de samedi, qui était la diffusion du doc fin de série.
De Olivier Joyard.
D'Olivier Joyard, qui devait être là et qui n'était pas là. Donc, finalement, tu présentais. Enfin, il y avait une heure
C'était
film.
Prévu depuis longtemps. Hein,
oui, non, mais au début, je veux dire, quand ça a été mis en tout début.
Dans le programme,
il était question qu'il soit là, etc. Quoi. Donc après, tu te dis, bah, c'est cool parce que finalement, tu présentes son documentaire, comme ça après, tu peux en parler avec lui, c'est quand même plus sympa. Ben non, tu passes ce documentaire qui fait quand même une heure, et puis après, tu as 30 minutes d'interaction avec le public sur un documentaire. Et genre, en gros, sans la personne qui l'avait, donc tu es toute seule. J'ai une photo d'ailleurs où tu voyais elle.
Non, mais je tiens juste à préciser qu'on me l'a dit. Que quand moi, il a été question que je présente ce documentaire, c'était vendu comme ça. C'est-à-dire, ils m'ont dit, il ne peut pas être là.
Ouais.
On a une demi-heure d'interaction avec le public. Si tu veux, tu le présentes et t'interagis avec le public après. Donc, je veux juste dire, quand je me suis pas retrouvée comme une conne, genre,
non, il n'est pas là. Non, tout à fait. Mais bon, le truc, c'est genre, ok, donc pendant une demi-heure, tu dois avoir une interaction avec le public. Qui va être une question-réponse, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre que va dire genre alors je vous explique le documentaire, genre non, soit tu fais un dialogue ou un monologue pendant 30 minutes, tu as parlé du documentaire. Mais après, c'était vu que c'était fin de série, c'était intéressant parce que c'était par rapport, tu avais plein de spoilers pour les gens qui n'avaient pas vu des séries, même si c'est des séries quand même qui se sont finies depuis un petit moment. Après, les gens, faut peut-être qu'ils s'y mettent, quoi, parce qu'il est temps, quoi. Par rapport à The Sopranos ou les trucs comme ça fait un moment que c'est fini, quoi. Donc, et finalement, c'était le moment où j'avais peur pour toi, mais finalement, le résultat était très bon, quoi, parce que finalement, il y a eu une partie. Bon, il y a eu quand même des moments, genre, qui a une question. Genre, ok.
C'était rude au début. Hein. Au début, j'étais toute seule sur scène avec mon micro, en plus, j'en fais. Donc, et j'étais là. Bon, alors, je vais vous raconter la fin de série la plus traumatique pour moi.
Non, finalement, les gens ont finalement parlé et ça a amené... C'était intéressant.
Parce que c'est vrai que j'ai pris le parti, vu qu'il n'était pas là, Olivier, j'ai pris le parti de ne pas parler spécifiquement du documentaire, enfin, de parler du sujet, mais sans parler du documentaire spécifiquement, parce que je n'allais pas faire « Oui, alors c'est intéressant, vous avez vu, quand dans la première partie, il mentionne ça. » Enfin, je n'ai pas des trucs qui étaient dans le documentaire, mais
oui, j'allais
pas juger du documentaire comme ça avec le public, ça aurait été chelou.
Non.
Donc du coup, la question, c'était... Mais je m'étais dit dès le départ, c'est vraiment un truc où ils vont avoir envie, les gens vont avoir envie de raconter leurs anecdotes. C'est classique.
Le problème, c'est que... un petit bill déjà.
Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que je parlais des miennes. Alors donc,
tu as eu l'occasion, bizarrement, de parler de
Buffy. Parce que j'étais là. Pourquoi il n'y a que 10 secondes sur Buffy dans ce documentaire? C'est pas normal. Du coup, je me suis permis de parler de Buffy, de parler d'Angel. J'ai parlé de How I Met Your Mother. J'ai raconté des trucs sur le background du choix de How I Met Your Mother. J'ai parlé du fait que de ma théorie personnelle, qui est que écrire la fin au début, c'est une connerie, et que d'ailleurs les deux fins qui ont été écrites au début, ce qu'on sait, c'est Lost et How I Met Your Mother, et vu les réactions de fans, ben voilà, Donc j'ai parlé de voilà, j'ai parlé de trucs comme ça et j'ai effectivement il y a des gens qui ont raconté ils ont parlé de Dexter, ils ont parlé de Stargate, ils ont parlé de plein de trucs de The Mentalist, de enfin des trucs surprenants.
Ouais, des trucs surprenants, mais bien sûr. Ouais, c'était
Non, en fait, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que j'étais un peu inquiète.
Parce que la salle était pas aussi remplie que Batman, hein.
Non.
Donc surtout c'est un début de journée
Mais il y a des gens qui sont restés parce que j'avais peur que les gens se barrent.
Non, mais c'est le documentaire,
ils se barrent tous.
Bah, il y en a 2-3 qui sont partis quand même. Genre, mais et moi, genre, bah, vous allez où? Revenez.
Mais voilà, c'était plutôt pas mal. J'ai posé la question que je voulais poser qui était est-ce qu'il y a une série dont vous ignorez la fin? Vous faites semblant que la fin n'existe pas parce que ça vous énerve. Je voulais parler de Scrubs, j'ai pas eu l'occasion. Moi, l'exemple que j'aurais donné sinon, si j'avais eu, mais finalement ils avaient dit des trucs, c'est That 70's Show. Où j'ignore la dernière saison. Je regarde pas, j'ai jamais vu la fin de cette série, j'ai jamais vu.
Je crois que moi non plus.
J'ai jamais vu le final de la 7 en fait, qui est le moment où Hyde et Jackie se séparent.
Ouais.
J'ai refusé de le regarder, j'ai plus jamais regardé l'épisode après.
Tu te parles plein de trucs.
Non mais j'ai plus jamais regardé après. Parce que je trouvais que c'était un sacrilège absolu. Moi, mon moment de solitude dans ma tête, que je pensais que ça allait être, c'était Doctor Who. Parce que Doctor Who, d'expérience, mais c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on en parle. Dans ces milieux-là, mais d'expérience, c'est les fans les plus passionnés, érudits et qui demandent à être respectés parce qu'ils n'ont pas toujours été respectés. Et c'est vraiment une fandom pour qui j'ai énormément de respect et d'affection. Et vu que je ne maîtrise pas Doctor Who aussi bien que d'autres choses, puis en plus c'est presque, j'ai l'impression que c'est impossible de maîtriser Doctor Who aussi bien que possible. C'est toujours inquiétant pour moi de faire un truc Doctor Who. C'est toujours le truc où je me dis. Et là, c'était avec Elena Casagrande, qui est dessinatrice et qui... Parce qu'on parlait des comics de Doctor Who, aussi publiés chez Aquileos, nos copains. Et elle a fait un comics qui est hors canon. Parce qu'il se passe pendant les brèches... Enfin, les comics se placent pendant des moments où on ne sait pas ce que faisait le Docteur dans la série. Et du coup, ça crée un nouveau compagnon. Et se passe à New York, c'est assez cool. Et donc, ce comics-là... Elle était là pour en parler. On avait aussi un fan qui fait partie de la sauce Gali machin là, qui était là pour parler, pour être sûr qu'on ait quelqu'un qui soit l'encyclopédie Doctor Who. Il avait un peu toujours tendance chaque fois que je lui posais une question à me parler des trucs qu'il aimait pas. Genre bon alors moi au début les comics j'aimais pas trop. Et tu sais tu regardes tu fais dude c'est pas le moment d'un. J'ai mais maintenant t'aimes... ah oui maintenant je suis très fan. J'ai dit, ah, voilà, commençons par là. C'est l'habitude française de commencer par. Bon, alors moi j'aime pas trop si, mais j'aime pas trop ça. Mais ce qui était très drôle, c'est que son docteur préféré soit le 3.
Ouais.
Et du coup, à un moment, je me suis amusée à faire un sondage dans la salle de qui était votre docteur préféré à tout le monde. Et c'est rigolo parce qu'il y a genre docteur 4, docteur 5, il y avait personne. Docteur 1, personne. Et là, il y a quelqu'un qui fait ben non, mais en même temps, on les a pas vus. C'est ceux qu'on trouve pas, tu sais, c'est ceux qui n'ont pas été enregistrés.
Ouais.
Ils ont été diffusés, ils ont été effacés. Les épisodes n'existent pas.
Ouais.
Enfin, très peu, il y a quelques versions enregistrées, on ne sait pas trop comment. Mais donc ça, c'était assez rigolo. C'était assez rigolo de voir qu'il y avait tous les fans du Dr. 10 et du Dr. 11.
Ah ouais.
Moins de fans de Dr. 12. Et puis après, il y avait qui veut le prochain docteur.
Ouais.
Ça, c'était cool quand même. Donc voilà, mais ça, c'était vraiment le moment où j'étais là. Oh mon Dieu, Dr. Who arrive.
Non, c'est bien parce que moi je suis pas une fan de Doctor Who et c'est vrai que j'ai appris plein de trucs. Tu ne peux apprendre que des trucs, mais c'était intéressant.
Bon,
elle était bien surtout.
Elena Casagrande, elle était super. Adorable. Ouais.
Elle est venue avec son mari et son bébé. C'était rigolo.
Qui était à côté du panel, genre.
Qui était très sage.
J'ai fait un bruit de chat. C'est bon, oui. Dans ma tête, les bébés sont des chats. Ok.
Ok.
Chapitre 9, le guest le plus inquiétant. Donc le guest où tu fais oulala.
Comment
je pense que ça... voilà. Alors pour toi.
Bah moi c'était, t'en as déjà un peu parlé en fait, sans dire que tu as détruit ma réponse, mais un peu quand même. C'est Julie Benz. Après je m'inquiétais pas trop avant, mais après le panel de Buffy 20 ans en fait où je l'ai vu. Comment elle se comportait en fait pendant le panel et comment elle ignorait un peu les questions, comment elle n'était pas très présente en fait. Et je l'avais vue avant, elle était fatiguée, ok, mais je me suis dit, wow, ok, je vais, il y a un panel avec elle demain, j'espère qu'elle va bien dormir parce que c'est genre si elle fait ça à chaque fois avec tout le monde, ça va être sympa.
Surtout qu'on est une heure toute seule avec
bah
elle.
Bah oui, bien sûr. Je me suis dit, j'espère qu'elle va avoir des réponses plus intéressantes que yes, drop the mic. Bon.
Et finalement, la question de David qui devait, où il avait, elle avait une minute maximum pour répondre.
Parce que Buffy est féministe,
oui,
c'est
parce
ça.
Parce que Buffy est féministe. Et elle a pris le truc, elle a fait yes, et elle a
fait genre, elle a fait semblant, de, elle a pas vraiment fait, mais elle a fait genre.
Drop the mic.
Et
mais c'était drôle.
Non, coup, c'était drôle. Après, par rapport au truc, etc., tu sentais, enfin, c'était tout dans la. Le truc, c'était sympathique, mais bon, là, elle parlait pas beaucoup. Mais tu sentais qu'elle était. Qu'elle avait pas vraiment envie de beaucoup participer, quoi. Genre, c'était toujours genre. Je souffre. Mais elle jouait de ça, quoi. Et donc, finalement. Après, au panel. Enfin, avant qu'elle arrive, c'était jusqu'à ce qu'elle s'assoie et qu'elle soit assise. Moi, ça m'inquiétait un petit peu, en fait. En plus, elle arrive à la dernière minute. Donc moi je suis montée en haut, je l'ai attendue.
C'est pas de sa faute si elle avait
d'avis. Non, bien sûr, tout à fait. Mais bon, il faut.
Parce que les gens, ils surinterprètent tout.
Non. Elle vient à la dernière minute parce que c'est comme ça. Et
ils l'ont amenée à la dernière minute.
Ils l'ont amenée à la dernière minute. Et comme elle est en plus toujours sur son téléphone, elle est très très média.
Sur son téléphone parce qu'elle communique.
Tout à fait. Elle est très média et elle envoie plein de trucs. Donc elle est très concentrée sur son téléphone, mais en même temps, elle voit tout à fait ce qui se passe, etc. Après, j'ai trouvé très sympathique. Je veux dire, pour tout. C'est pas un problème. Mais c'était comme inquiétant parce que bon. Et finalement, t'as lancé la vidéo. Et puis moi, je l'ai fait descendre. En plus, comme tu m'avais présenté avant, c'est bon quoi. Tu savais qui j'étais. Je pense que c'est souvenu. Donc on a emmené. Puis l'arrivée a été parfaite.
Ouais, parce qu'en fait, elle est arrivée pendant. Elle a descendu les escaliers de la salle sur le côté pendant la vidéo. Donc personne ne l'a vue. Et du coup, à la fin de la vidéo, j'ai pu la présenter. Et hop! Elle est arrivée sur scène et tous les applaudissements.
Et puis ça a été rapide et tout. Et puis finalement, c'était très bien. Elle a été parfaite. Elle a répondu super bien. Elle a dit des choses très intéressantes. C'était. Non. C'était très bien. C'est juste la première rencontre et le premier jour. Je pense que c'était surtout dû du fait qu'elle était fatiguée en plus. Mais moi, ça m'a inquiétée.
Oui, parce que matin,
j'avais vraiment peur, quoi. Surtout qu'il y avait une attente par rapport à ça. Parce que, enfin, genre, ben, je sais pas, c'est Julie Benn, c'est Darla, quoi. C'est
ça fait Angel,
genre,
fans,
dire, tu te dis, genre, ok. Et tu te dis, non, j'ai pas envie d'être déçue. Non. Donc, tu t'inquiètes. Et ouais. Puis surtout, je sais pas si par rapport aux spectateurs, enfin, les gens qui étaient là, enfin, ils voyaient pas l'envers du décor, en fait. C'est-à-dire, enfin, donc, t'as pas les les informations de Behind the Scene, enfin, tu vois ce que. Enfin.
T'as pas les mêmes données, tu vois pas les choses de la même façon.
Exactement. Hein. Donc, voilà, tu t'inquiètes pas autant, surtout.
Oui, parce que t'es plus en mode. Bah, t'es en mode spectateur, quoi. Donc, t'as pas. Mais. Ouais, c'est rigolo parce que. C'est rigolo parce qu'en fait, on sait jamais. Mon expérience, c'est qu'on sait jamais ce que va donner un panel. Généralement, je pars toujours du principe que les gens que j'attends le plus. Sur lequel je mise le plus quand je regarde le programme, c'est les gens qui vont être les moins intéressants, enfin les moins intéressants, c'est les trucs qui vont être les moins remarquables, et que c'est souvent les gens dont j'ai jamais entendu parler qui vont s'avérer des vraies découvertes incroyables, humaines. Je veux dire, la première année, bon, c'est pas vraiment jamais entendu, mais la première année, Sean Ashmore, ça a été vraiment un coup de cœur immense. Alors qu'il y avait, j'ai quand même rencontré James Marsters aussi la première année, qui était absolument fantastique, mais Sean Ashmore, c'était tellement une surprise.
Ouais.
Et la deuxième année, c'était Cole Sanchez, le mec qui bosse pour Adventure Time, quoi. Pour le coup, c'était ce type est super intéressant, hyper fun, on a passé un super moment. Enfin, voilà, donc c'est jamais les gens que tu t'attends, et donc effectivement, du coup, ça crée une inquiétude sur les gens que tu attends.
Tout à fait.
Donc j'avais une inquiétude avec Julie Benz aussi pour les mêmes raisons, genre je veux pas être déçue, mais moi ma grosse inquiétude qui était vraiment pour le coup avant d'arriver, avant de le rencontrer, en fait c'était Jamie Bamber.
Bien sûr.
Parce que je me suis dit, je voulais le panel Star Galactica, je trouve ça génial d'en parler, je trouve ça hyper important d'en parler à Comic-Con, en plus avec Jamie Bamber c'était énorme, et tout d'un coup quand je me suis dit mais c'est énorme et en même temps mais de quoi on va parler ? Comment je vais réussir à dire des trucs, à faire dire des trucs intéressants en une heure, comme je disais, avec un acteur plutôt qu'un auteur.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il va avoir à dire ? J'ai regardé 2-3 interviews, puis je le connais depuis si longtemps.
Mais c'est aussi un auteur.
Oui, c'est ça. Mais il y avait quelque chose de très genre, mais merde ! comment est-ce que je vais bien traiter ce truc-là, comment je vais réussir à faire un panel qui soit à la hauteur de mes attentes de fan, tu vois, où j'aurais voulu y participer, où j'aurais voulu y assister. Et c'est vrai que, après, moi, mais c'est aussi parce que je pense que je fais bien mon travail, je pense que j'ai beaucoup de retours positifs, je pense que ça, j'anime bien, je traduis bien, je suis très fidèle à la traduction et tout ça, mais j'ai clairement, tous les ans, envie de faire encore mieux. J'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de créer des choses qui vont passionner, j'ai envie que dans chaque panel, il y ait un truc qui a été dit qu'ils n'aient jamais entendu avant et qui vont les faire réfléchir bien au-delà de la série dont on est en train de parler, de l'acteur dont on est en train de parler, mais qui est un truc universel, une leçon de vie en fait, hashtag leçon de vie quoi. Et du coup, j'étais là, putain, mais sur Battlestar Galactica et Jamie Bamber, il y a tellement d'attentes. Et donc, c'est lui qui m'inquiétait le plus. Et le moment où je l'ai rencontré, c'était déjà beaucoup mieux. Et encore, je te dis, j'avais pas imaginé à quel point il serait en roue libre, dans le bon sens du terme. À quel point il serait. En fait, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'il avait dit au début qu'il était pas. Que ça fait un petit moment, donc il va falloir qu'il se rappelle des trucs. Tu pensais pas qu'il allait se rappeler.
En fait, c'est le genre de mec hyper intelligent qui, du coup, est tout le temps en train de se sous-estimer lui-même. Hein. Même la façon dont il parle de ses scénarios, t'es là. Non, mais. Believe in yourself!
Call me!
Oui, c'est ça. Call me! Mais non, c'était vraiment magique. Et c'est vrai que. Il y a quelque chose de très. En fait, je trouve que ce panel avec Jamie Bamber, c'était un peu le panel psychanalyse.
Tout à fait.
Parce que surtout qu'il y avait les images, parce qu'au début je lui montrais ce que les images sur grand écran derrière nous, et les photos, et je lui dis oui, il y a ça derrière nous, il fait non, mais je les vois, et là je vois qu'il y a, un moniteur devant en fait, et donc en fait il se regardait pendant qu'il parlait.
Tout à fait.
Parce qu'en plus les sièges, je les fais de telle façon qu'on soit on est vraiment l'un à côté de l'autre, donc on pouvait pas vraiment se regarder. Après, je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois j'ai redéplacé les sièges.
Bah, c'est cette fois-ci où tu te retournais à chaque fois pour regarder le truc, il fait non, mais c'est devant.
C'est lui.
Et toi, t'es bien. Ah oui! Ah! Genre, ah oui, alors t'es là, je fais non, mais je le vois là. Ah oui! C'était pas mal, genre. Oups!
Mais c'est juste ma troisième année. Mais je crois qu'il n'était pas là avant le moniteur. Enfin, bon, en tout cas, c'était vraiment très drôle le côté psychanalyse. Hein. Et donc voilà, donc, en fait, finalement, tu vois, quelque part, c'est parce que j'étais inquiète que ça s'est bien passé. Donc voilà, dernier chapitre 10, les fans. Donc rapidement les trucs. Donc voilà, en fait, je vais plus précisément de. On a rencontré un fan de nous.
Ah, oui.
On a rencontré un fan de la semaine berlinoise.
Ouais.
Et ça, c'était la première fois.
C'était le premier jour en plus.
Ouais. Bah, en sortant de Jamie Bamber.
Ouais.
Il dit oui, alors en fait, moi, par pourquoi vu c'est génial, je t'ai découvert et donc en fait, je vous écoute. Donc c'est toi, Marine. Et Marine était là. Oh, quelqu'un qui me connaît, mon Dieu. Donc j'étais là. Il y a donc une troisième personne qui écoute le podcast, en plus de Astira et Laurent, qu'on a aussi croisé à la sortie du panel Wonder Woman.
Le lendemain, ouais.
Donc là, c'était cool. C'est Ah, Astira, en vrai.
C'est genre, c'est moi. Je veux.
C'est qui toi.
Ah. C'était trop. En plus, moi, elle est venue se présenter. Hein, genre, c'est moi, tu vois. Je fais, ah, super.
Mais donc, c'est Fabrice, qu'on a rencontré le premier jour, nous a donné beaucoup, beaucoup d'espoir sur le potentiel divertissant du podcast.
Il les a tous écoutés, quoi. Il les écoute dans sa voiture. C'est genre.
Il paraît qu'il nous parle pendant qu'il les écoute. et j'ai bien aimé parce qu'il a commencé par dire non, en fait, faut que je te dise. Moi, je suis fan de bouffe. Oui, donc effectivement, t'es très heureux.
On n'aura pas parlé bouffe aujourd'hui.
Non, ben non, j'ai un petit clin d'œil à la fin pour parler bouffe.
Ok.
Mais donc Fabrice, c'était un plaisir de te rencontrer et merci de nous écouter. Donc on a rencontré Astira et Laurent Doucet et on a aussi rencontré donc Big M quand on est donc en fait on a croisé effectivement l'équipe de Pourquoi Buffy c'est génial. On allait prendre un verre pour débriefer en fait. On est tombé sur les mecs de Pourquoi Buffy c'est génial dans la bar le premier soir. Du coup, ils se sont dit "Ah, on va rester avec elle boire un verre." Bon, OK. Et à un moment je sors mon ordi et j'aime beaucoup parce que c'est hashtag #Clément. Non, c'est entre guillemets Clément. Enfin, qui s'appelle pas Clément mais qui se fait appeler Clément qui me regarde fait "Non mais tu vas bosser là ?" Non, parce que moi, je reste pas pour l'inverse si tu bosses. Et j'étais là, non, je mets juste les vidéos de Marine sur mon ordi, mais j'ai bien aimé là. Non, mais attends, tu vois, il m'a fait trop rire. Et il y avait leur fan numéro 1, Big M, qui à un moment, je dis, ah ouais, mais je te suis sur Twitter. Elle fait, non. Il dit, non, crois-moi, tu me suis pas sur Twitter. J'étais là, wow, ok. Et ça m'a fait trop plaisir. Puis à un moment, je dis un truc et il dit, ah, mais ça a un rapport avec Petit Bear. Et je regarde, je fais, d'où? Bah, c'est mon petit frère Petit Bear. Bah oui, on habite avec mon petit frère. Et là, il regarde Marine et fait « Ah, c'est toi, Morskaya !» Et Marine était là « Wow !» Et c'est trop agréable parce que c'est hyper gentil. Enfin, il est hyper drôle. C'est un grand fan de Buffy et il a une obsession, c'est que les gens regardent le porno de Buffy parce que c'est un film qui est étonnamment respectueux de la mythologie. Et il trouve ça super cool. Et surtout sur le DVD qui est pratiquement introuvable, il y a 20 minutes de bonus qui te montrent à quel point ils ont respecté la mythologie et qu'ils prennent le truc très au sérieux.
Il l'a offert à une de nos connaissances, donc
on pourra toujours... Il l'a offert à Carole, ouais.
Je voulais pas forcément balancer Carole.
Qui est très joliment aussi, elle a Instagrammé en disant merci de me faire découvrir un nouvel aspect du Buffyverse. Et donc voilà, donc c'était hyper drôle et hyper fun. Donc lui, il était voilà, donc c'était hyper sympa. Et après, il y a quelques personnes qui m'ont dit j'adore ce que vous faites, je peux faire une photo. Et une personne qui a fait ça, j'étais là, ok. Puis il y a d'autres gens qui ont croisé, qui ont remercié pour le panel, pour les panels. Des trucs en plus, des gens, tu sens, pas des fans de Buffy, pas des gens qui me connaissent, des gens nouveaux. Ouais, c'était vraiment super agréable. Et après, il y a aussi le côté... Donc le côté nous fans. Là, je voulais parler que tu parles quand même de ton instant star, Marine. Ton anecdote...
Mon anecdote pipi avec les stars. L'avantage d'être au talent VIP area, c'est que tu utilises les mêmes toilettes que les stars. Donc, je suis descendue, j'ai croisé donc Austin Nichols, qui m'a fait un grand sourire, avec les mains propres, hein, bien sûr. Et puis, j'ai fait pipi à côté de Poppy. Et puis, après, je suis ressortie, il y avait Julie qui arrivait. C'était genre pipi avec les stars. Voilà, c'était assez fun. Et j'ai aussi failli renverser mon café aussi sur Austin, qui m'a souri gentiment. Je n'ai pas adressé un mot, mais ça m'a suffi.
Oui, il a un super sourire. Hein.
Non, et puis surtout, il te regarde. S'il passe, il te regarde, il te sourit, il t'ignore pas, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme cette autre star...
Dont on ne dira pas le nom.
Dont on ne dira pas le nom, qui était genre...
à qui on n'a pas parlé non plus. Donc, on ne sait absolument pas comment il est en vrai, mais de loin... On avait moins envie de lui parler.
Ah, complètement.
Et on va pas dire son nom du coup parce qu'on
ben
va
non,
pas,
voilà. Ben non,
mais
ben non,
vous faites le
vous faites le lien.
Voilà, bah, vous par comment on dit par élimination, par vous allez comprendre qui on parle. Donc chapitre 11 justement, les trucs qu'on n'a pas vus.
trucs qu'on n'a pas vus, ben c'est vrai qu'on a Stranger Things, on l'a pas vu. Bon, on a vu les acteurs manger derrière nous, c'est tout.
Rapidement. C'est le jour où on était en masterclass toute la journée dans le bunker, donc on avait 10 minutes pour manger.
Donc on n'a pas vu ça, on n'a pas vu Austin Nichols, on n'a rien vu par rapport à ça, parce qu'en même temps, si elle s'en occupait pas, on ne pouvait pas vraiment le voir, vous ne connaissez pas le temps.
On n'a pas vu tout ce qui était lié à Iron Fist. On n'a
pas lu tout ce qui était à Iron Fist, on n'a pas lu tout ce qui était lié avec Inhumans, ou ce qui était lié avec Star Wars aussi.
Ouais.
Donc tout ça, on a loupé. Après, on a croisé tous les gens, hein, on les a croisés, je veux dire, nos regards se sont... Voilà, croisé, mais c'est tout. On s'est peut-être frôlé, mais on leur a pas parlé parce que parce que par rapport à ce qu'on vous a dit au début, ça, nous on le fera pas. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a loupé hein, sinon on a loupé Ricky. On voulait voir des gens, on voulait aller au Artist Alley. Et en fait,
ça,
on a pas pu.
Passer plus de temps au Artist Alley, on n'a pas du tout le temps.
Non, parce qu'en fait, le truc c'est que par exemple, c'est dimanche. On avait 15 minutes entre chaque panel. Le samedi, on avait du temps, mais le temps qu'il y avait, donc il fallait quand même qu'on mange un petit peu, parce que quand même, il faut pouvoir prendre des forces. Et puis, sinon, il faut travailler les prochains panels, il faut soit rencontrer des gens. Donc, ça prend du temps. Donc, finalement, t'as pas le temps, quoi. Tu voudrais faire tellement plus de choses et c'est que 3 jours, quoi. C'est que 3 jours. Et puis, ça se termine beaucoup trop tôt. Je ne comprends pas pourquoi ça termine à 7 heures. Ça devrait durer au moins jusqu'à 21 heures, si ce n'est pas 22 heures.
Je ne suis pas sûre qu'au niveau staff et sécurité, ils peuvent.
Ça s'organise.
Mais c'est clair que moi, j'aurais voulu prendre plein de photos avec des cosplays, quoi.
Non, tout à fait.
Et j'ai pas du tout eu le temps de prendre de photos avec cosplay, j'ai même pas eu le temps de regarder les magasins, j'ai même pas eu le temps de...
Moi, j'ai voulu faire une photo à la fin de Wonder Woman, et quand je suis arrivée, ils avaient déjà retiré un bras.
Ils nous ont pas autorisé
à faire une photo. Non, vous avez pas le droit, non. Et puis après, moi, j'ai voulu les prendre. Donc, je t'ai pris devant tous les trucs de Sunnydale, les panneaux de direction, là. Et finalement, j'ai vite pris la photo parce qu'on nous a dit de virer, donc je l'ai pas postée parce que mais elles sont pas... Mais la fin était un peu...
On a réussi à croiser un Stormtrooper. Oui. On a réussi... Il y a une photo que t'as pas mis en ligne, mais qu'il faudra quand même mettre en ligne de Strange, ou le truc, le Strange avec les vélos. On est toutes les deux à vélo, on a l'air toutes les deux complètement explosées.
Ouais. Bah, j'ai mis la tienne avec toi toute seule, ouais. Mais... Non, on a réussi à faire quelques photos, mais c'était vraiment genre, allez, on pose
mais là. Mais le mieux, c'est que j'ai dit à David, non, mais attends, on n'a pas le temps, désolé, pour ce soir, j'ai envie de squatter avec Rebecca et George, parce qu'on a quand même passé un peu de temps avec les dessinateurs de Buffy. Je restais un peu ici, tranquille, j'ai pas envie de me stresser et tout. Parce que je lui avais proposé au départ qu'on fasse des photos le plus possible, et tout, finalement, non, mort. Et puis en fait, donc on a perdu David, et à un moment... J'étais en train d'essayer de faire un selfie avec Spider-Man. Et là, il y a David
qui arrive derrière moi. Et moi, je te prenais, je t'ai pris en photo en train de faire le selfie. Genre.
Et là, tu vois David arriver derrière moi et faire un faux plutôt bombing. Et donc, finalement, on a fini avec David et on a fini par faire. Et surtout, la plus belle photo qu'on a réussi à faire, on est sorti de la halle. On était dehors, on a croisé Marty McFly. Et David fait, oh regarde Marty McFly, fait, allez on prend une photo, et on a fait une photo tous les trois avec Marty McFly, et c'est la plus belle photo de Comic-Con.
Ouais.
Et qui est vraiment prise, on est tous les trois.
Non, parce qu'en plus il y a une lumière rouge, juste derrière, rouge rose, qui donne vraiment un. Qui est super.
Donc voilà, on va s'arrêter là. Je voudrais alors donc remercier Jessica et Pierre-Yves de me faire participer, de si bien nous traiter, d'être tout le temps en train de bosser pendant tout le week-end. Donc c'est le patron de Comic-Con et la talent. Manager.
Ils essaient de garder le sourire toujours.
Ils gardent le sourire, ils s'inquiètent de ce qui se passe.
Ils sont toujours super polis.
Ils sont au taquet sur tout ce qui se passe. Quand il y a un souci quelque part, ils en parlent tout de suite pour qu'on puisse le régler. Quel que soit si c'est un souci de nous ou si c'est un souci sur nous. C'est un grand professionnalisme. Je sais qu'il y a des gens qui disent croyez-moi, ils bossent quand même énormément et ils prennent ça très au sérieux et ils sont très généreux de leur temps et de leurs compliments aussi, et c'est vraiment un plaisir. Donc merci à eux.
Et puis c'est que la troisième année, hein.
Et c'est
donc
que
ça grandit.
Je voulais envoyer un petit bisou, je pense qu'ils nous écoutent, mais à Eric et Emily, nos amis du catering.
Ah oui.
Qui nous ont nourris.
Ils ont permis de manger chaud.
Parce qu'ils gardaient nos plats au chaud pour qu'on puisse manger. Et ça, c'était cool. Donc voilà, donc c'était Eric et Emily. Merci.
Et puis le staff. Le staff.
Tout le staff.
Tout le staff était super.
Il y avait Laetitia qui était hyper adorable à la salle workshop. Il y avait les filles de la masterclass aussi qui étaient super gentilles.
Ouais, les gens de la régie aussi.
C'est hyper intéressant, vos panels. Les gens de la régie ont été adorables dans toutes les régies. Celui qui se rappelait de moi l'année dernière, ah, je me rappelle de toi.
Parce que tu m'as fait peur. Et après, ça faisait. Genre, ok. Donc, non, c'est. Ouais, super. Franchement, une belle team.
Ouais, une belle team.
Belle team qui nous permet d'avoir une belle expérience.
Ouais. Donc voilà, on a fait, je pense que ça fait 2 heures. Hein ? Je suis 2 heures, ce petit podcast. On espère que vous viendrez l'année prochaine.
Ouais. Moi, je serai là encore. Hein ?
On va faire ça comme Team Écureuil, à nouveau. Racontez-nous vos anecdotes. Si vous avez des photos de nous, n'hésitez pas à nous les donner.
Ah ouais, c'est cool.
Et comme d'habitude, il y aura des liens, notamment mon article Wonder Woman qui me tient très 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 à cœur, et que je vous invite à lire et à commenter, à partager surtout. Parlez de notre podcast autour de vous. Je sais, on fait des podcasts hyper longs et hyper bizarres, mais je suis sûre qu'il y a des clients.
Ouais.
Donc faut en parler, faut faire de la pub. Et puis continuez à nous suivre parce que comme vous avez vu, à chaque épisode on fait des trucs un peu différents. On a vu des films ces dernières semaines dont on va vous parler dans le prochain podcast. On va faire un peu un résumé de toutes nos aventures pop culture de ces dernières semaines en une fois la semaine prochaine. Ça va donc encore être un podcast long. Et promis, on va essayer de trouver des moyens de mettre en ligne plus rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est déjà pas mal.
On vous souhaite une excellente semaine.
Excellente semaine.
Bonne pop d'ici là.
Bonne pop d'ici là.